Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Merci de votre fidélité. Voici le programme du jour. Faut-il généraliser le couvre-feu pour mineurs? Christian Estrosi souhaite rétablir justement un couvre-feu pour mineurs à Nice. Robert Ménard annonce un couvre-feu à partir de 23h pour les mineurs de moins de 13 ans à Béziers. Puis comme vous le savez, Gérald Darmanin l'a annoncé pour Pointe-à-Pitre. Nous y serons et puis nous verrons les différentes réactions. Et vous, qu'en pensez-vous? On découvrira ensemble le sondage à ce sujet. Les universités, ou plutôt certaines universités gangrénées par la gauche radicale. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon tenait une conférence à Sciences Po Paris après l'annulation de celle de Lille et surtout après ses propos établissant, je vous le rappelle, une sorte de parallèle entre le responsable de l'université de Lille et Eichmann. Alors Mélenchon s'est-il excusé? Non. Joue-t-il à domicile à Sciences Po Paris? Oui, on en parlera. Un accord est en train d'être signé entre la SNCF et les syndicats pour permettre aux agents de partir plus tôt à la retraite tout en étant payés, une forme de retraite anticipée. Alors, scandaleux ou alors normal pour des métiers pénibles, vous verrez que vos réactions, enfin on les découvrira à l'antenne, sont très vives. Nous parlerons également de ce livre, Enquête, qui crée la polémique, accusée par SOS Homophobie d'être transphobe. Transmania, écrit par Marguerite Stern et Dora Mouto, est un succès de librairie et bien plus. Et c'est Sophie Audugé qui nous rejoindra à 13h pour en parler. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'était il y a tout juste 200 jours aujourd'hui l'attaque terroriste du Hamas en Israël. 1170 personnes ont été tuées le 7 octobre dernier et 133 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, parmi eux trois Français, Orion, Oad et Ofer. Ofer dont l'ex-femme Hadass Calderon, franco-israélienne du kibboutz Niroz. Le 7 octobre, 5 membres de sa famille ont été enlevés par les terroristes. Ses deux enfants, Sahar et Eretz, qui ont depuis été libérés, sa mère et sa nièce qui ont été assassinées, et son ex-mari donc toujours otage. Elle s'est confiée à notre envoyée spéciale, Régine Delfour.
Cela fait 5 mois que ses enfants, Sahar, 17 ans, et Erez, 12 ans, ont été libérés. Et pourtant, le cauchemar continue pour Hadass.
Ils se sentent très coupables. Ils ont été relâchés, mais leur père est encore là-bas. Quelque chose s'est cassé. Ils ont totalement changé. Ils sont complètement différents. Ils pensent même qu'ils pourraient être à nouveau kidnappés. Et peu importe ce que je peux leur dire, comme vous êtes en sécurité ou tout va bien maintenant.
Si Hadass a décidé d'emprunter la plume, c'est pour que le monde réalise ce qui s'est passé le 7 octobre.
Le monde doit savoir. Pendant qu'ils étaient en train de violer, ils les torturaient avec des couteaux sur tout le corps. Ils ont coupé les seins de ces femmes, ont mutilé leurs parties intimes, introduit des choses. C'est totalement fou. Et après, ils les ont tués d'une balle dans la tête.
Dans son livre qui sort demain en France, Hadass met aussi en garde les Français contre le terrorisme.
Je pense que vous devez vraiment vous inquiéter et faire très attention avec le terrorisme. On ne peut jamais savoir quand il va frapper et nous surprendre comme ce qui nous est arrivé. Ça arrive par surprise, cela peut vous arriver dans votre maison, à votre enfant, dans la rue, dans n'importe quel immeuble, dans un avion ou n'importe où. Le terrorisme, c'est comme un cancer qui se propage et vous ne pouvez pas l'arrêter.
Ofer, son ex-mari, est l'un des trois otages français retenus dans la bande de Gaza.
Voilà pour ce témoignage poignant. Dans le reste de l'actualité, un Tunisien de 37 ans sous OQTF, accusé de viol, est libéré sous contrôle judiciaire après son interpellation. La semaine dernière, il ne s'est pas présenté à son procès au tribunal correctionnel de Nanterre. Cet homme était chauffeur VTC et s'en est pris à sa victime en la raccompagnant chez elle après une soirée. Une situation évidemment insupportable pour la jeune femme de 27 ans qui ne comprend pas aujourd'hui comment son violeur peut être encore en liberté. Écoutez.
Je me suis rendue à une soirée et de là, blackout, je me réveille vers 8h40, nue dans mon lit avec un homme nu et qui était en train de me toucher, de m'agresser. Moi, sur le coup, j'ai été choquée, paniquée. Je lui ai dit je lui ai dit de partir. Je lui ai dit, je suis désolée, mais il va falloir partir. J'arrivais même pas à le regarder. Il y a eu la confrontation, etc. Et en fait, il a été placé, déféré au tribunal de Nanterre. Et à ce moment-là, il n'a pas été placé en détention provisoire. Si un jour il est contrôlé et qu'on voit qu'il est sur un fichier, dans ce cas-là, il va potentiellement avoir la peine. Mais jusque-là, parce qu'il n'a pas été placé en détention provisoire, il aura rien, quoi. Je trouve ça hyper décevant et frustrant. L'enquête a été hyper bien menée. Il y a vraiment des preuves à l'appui. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mais parce qu'il n'a pas été en détention provisoire, bah, il va rien se passer.
Et voilà ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. Tout de suite, les débats en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
Merci Mickaël. Je suis entourée de Judith Vintraube. Bonjour à vous.
Bonjour,
Judith.
Sonia.
Merci d'être là. Maître Maxime Thibault nous accompagne. Bonjour.
Bonjour Sonia.
Merci également à Philippe David d'être présent.
Bonjour.
Bonjour. Et je salue Arthur de Vatrigan également, bien sûr. Bonjour à vous, cher Arthur. Beaucoup, beaucoup de sujets dans l'actualité. Mais une affaire, si je puis dire, qui d'abord a suscité beaucoup d'émotions. C'est un chanteur qui est très populaire, qui est très aimé par beaucoup de générations, en particulier les plus jeunes, mais pas seulement. Et puis maintenant, des interrogations, en tous les cas, des zones d'ombre. Déjà, Kendji Girac est sorti d'affaire, après, vous le savez, avoir été blessé par balle dans la nuit de lundi à mardi sur une aire d'accueil des gens du voyage à Biscarrosse, dans les Landes. On peut noter d'ailleurs que cette aire de voyage est quasiment vide aujourd'hui. Ils ont repris, si je puis dire, la route avec les caravanes direction Bordeaux. C'est tout ce qu'on sait pour cette communauté. L'artiste, quant à lui et ses proches, avancent toujours la thèse d'un accident domestique, mais une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Est-ce à dire que les premiers éléments fragilisent la version des faits de l'artiste? Maître, on verra avec vous aussi ce qu'il en est, comment peut se passer une telle enquête, mais tout d'abord les détails avec notre rédaction.
Après des premiers témoignages confus et malgré la cause accidentelle évoquée par le chanteur, la justice ouvre une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Au lendemain du drame, des zones d'ombre interrogent les enquêteurs. À son arrivée à l'hôpital, Kendji Girac revient sur l'incident. Il évoque un tir accidentel qu'il aurait lui-même causé alors qu'il manipulait un pistolet automatique acheté dans une brocante. Une arme retrouvée après les faits, dans un fossé vidé de son chargeur. Une thèse de l'accident soutenue également par des témoins sur place, se prétendant comme proche du chanteur. Les enquêteurs s'interrogent quant à eux sur les circonstances de l'achat de cette arme et sur les raisons qui l'auraient conduite à la manipuler au milieu de la nuit. Kendji Girac est sorti du bloc opératoire dans la soirée ce lundi. Il devrait être entendu par les enquêteurs dès que son état de santé le permettra dans la journée.
Bien, et je précise que selon le communiqué du procureur publié lundi soir, le chanteur n'aurait pas pu expliquer ni les raisons de son récent achat d'armes, semble-t-il, ni celles pour lesquelles il s'est retrouvé à manipuler cette arme. Nous sommes sur place, toujours devant le centre hospitalier de Bordeaux, avec notre journaliste Augustin Donadieu. Augustin, il va être entendu de nouveau, Kendji Girac, en fonction de son état de santé, probablement dans quelques heures, tout à l'heure.
Effectivement, selon le parquet de Mont-de-Marsan, il sera entendu par les enquêteurs dès lorsque son état de santé le lui permettra. Ce que l'on sait, c'est que des proches de sa famille ont d'ores et déjà été entendus par les enquêteurs hier, dont sa compagne, sa femme, qui était présente au moment du drame. Les enquêteurs tentent de reconstituer le déroulement des événements dans cette soirée, dans cette nuit du dimanche à lundi, où Kendji Girac a été blessé grièvement. Les enquêteurs travaillent à pied d'œuvre. Ils ont retrouvé une arme sur cette aire d'accueil des gens du voyage, une arme dépourvue de chargeur, sans munitions à l'intérieur de celle-ci, et une arme qui était éloignée de la caravane de Kendji Girac. Plusieurs zones d'ombre restent tout de même sur cette affaire, à commencer par l'accueil qui a été réservé aux gendarmes lorsqu'ils sont arrivés sur place, une vingtaine d'individus qui leur ont dit concrètement: il ne s'est rien passé, il n'y a rien de spécial, vous pouvez rebrousser chemin. Et c'est à ce moment-là que les gendarmes sont entrés sur le camp et ont pu découvrir la scène. Alors, il faut savoir que dans cette communauté des gens du voyage, c'est la loi du silence qui règne. Nous avons pu, avec Florian Paume, rencontrer à la fois la famille de Kendji Girac, qui s'exprime très peu, même sur son état de santé, et d'autres personnes de la communauté qui ne vivent pas spécialement sur cette aire d'accueil des gens du voyage et qui nous ont relaté une soirée avec de l'alcool, des tensions sur ce camp, sans nous en dire plus, et évidemment tout cela hors caméra. Cette enquête, elle pourrait prendre du temps, puisque selon le parquet de Mont-de-Marsan, 80 caravanes se situaient sur cette aire. Et évidemment, les enquêteurs veulent recueillir le plus de témoignages possible pour tenter de reconstituer les événements.
Merci beaucoup, Augustin Donadieu, en direct et en duplex depuis Bordeaux. Maître, là, nous sommes face à une affaire. Dès le début, les versions sont contradictoires, si je puis dire, avec les premiers éléments de l'enquête ou ce qu'auraient découvert les enquêteurs. Voilà pourquoi c'est un homicide, c'est une enquête pour homicide volontaire.
Effectivement, comme vous le dites, hein, la prévention, elle démontre un petit peu le sentiment qu'ont les enquêteurs. C'est-à-dire, quand vous parlez d'homicide volontaire, vous n'êtes déjà pas sur une logique d'homicide involontaire, donc c'est pas du tout la même prévention qui est visée. Et effectivement, ce qui va être compliqué pour les enquêteurs, c'est d'arriver à démontrer ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire de manifester la vérité judiciaire, si derrière vous avez une tradition culturelle, hein, qui est celle des gens du voyage, de garder le silence et de régler leurs problèmes entre eux. Parce que effectivement, il y a la question du silence qui va être gardée, mais il y a aussi la question de régler le problème qui a pu se poser entre eux, qui va se poser demain, et la question d'une justice privée qui va aussi se poser. Donc effectivement, ce qui est compliqué pour les enquêteurs, c'est ce double enjeu d'arriver à manifester rapidement la vérité pour savoir ce qui s'est réellement passé et savoir si le chanteur dit la vérité ou pas. Et deuxièmement, d'éviter effectivement qu'il y ait une justice privée qui s'installe ensuite.
S'il protège quelqu'un, quelqu'une, on ne sait pas. Difficulté aussi, vous l'avez dit, dans cette communauté, surtout que nous l'avons constaté sur place, c'est-à-dire il faut en tous les cas pouvoir auditionner, en tous les cas écouter les principaux témoins qui ont pris la route. Pour en tout cas certains d'entre eux qui ont quitté cette aire d'accueil de Biscarrosse. On y sera tout à l'heure s'il y a de nouvelles informations. Pour l'heure, on a beaucoup de sujets sur lesquels on voudrait vous entendre. Christian Estrosi souhaite rétablir un couvre-feu pour mineurs à Nice. Robert Ménard annonce un couvre-feu également à 23h pour les mineurs de moins de 13 ans. Le maire de Béziers qui a pris pour cela un arrêté interdisant aux moins de 13 ans d'être sur la voie publique, je donne les détails, après 23h, à moins, bien évidemment, d'être accompagné par un parent. Le maire de Béziers s'annonce notamment sur l'annonce de Gérald Darmanin qui, vous le savez, a annoncé un couvre-feu à Pointe-à-Pitre. Écoutons Robert Ménard et ses explications pourquoi, selon lui, une telle mesure pourrait, non pas évidemment être un bouclier face à l'hyperviolence des plus jeunes, mais en tous les cas rassurer une partie des habitants.
C'est une mesure de bon sens. Je vous rappelle que je l'avais fait il y a 10 ans. On avait été poursuivi, vous en souvenez peut-être, par la Ligue des droits de l'homme, comme si elle avait d'autres à foutre, la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que vous croyez qu'un minot qui a de 9 ans, 10 ans ou 11 ans, il a à être tout seul en pleine nuit dans la ville? Bien sûr que non. D'abord, quand ils sont en bande, ils sont souvent des dangers. Et quand ils sont tout seuls, ils sont en danger. C'est difficile de me dire, en Guadeloupe, le ministre a raison de le faire, et vous, vous n'avez pas raison de le faire.
Alors, bon sens, dit Robert Ménard. Moi, j'ai eu plusieurs policiers qui me disent « Oui, très bien. » Mais enfin, c'est qui va faire... Qui va faire... Pardon, c'est pas très joli ce que j'ai dit. Pas du tout, d'ailleurs. On devrait faire un couvre-feu sur ces expressions. Non, non. Corrigez-moi quand c'est comme ça, c'est pas joli. Les policiers se plaignent d'un travail supplémentaire parce que ce sont eux qui vont conduire ces jeunes au commissariat. Appeler les parents parce que voilà ce qui se passe. Hein. Une fois qu'un mineur n'est pas chez lui à ce moment-là, vous devez appeler les parents. Et parfois, les parents vous disent « Non, on ne viendra pas le chercher. »
Non mais dans ces cas-là, il faut lancer des procédures de déchéance de l'autorité parentale, parce qu'excusez-moi, faire des enfants, c'est les éduquer. Ça consiste pas simplement à faire... Moi, j'ai eu des enfants, ils rentraient pas comme ils voulaient, à l'heure où ils voulaient, à minuit, 2h, 4h du matin. Non, il y avait des règles et c'était carré. Et c'était carré. Parce que on n'est pas... j'ai utilisé un terme utilisé par Édouard Philippe, Premier ministre, c'est pas le bobinard. L'expression connue par les militaires. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Un gamin de 11 ans, 12 ans n'a rien à faire dehors. Je vais vous dire une chose, je trouve que 23 heures, c'est très tard.
Voilà. Mais c'est ce que je dire.
Trouve déjà que 23 heures, c'est
pour moins de 13 ans.
Mais, oui, mais l'hiver, il fait nuit à 17 heures. Alors, s'ils ont école jusqu'à 19, 20 heures, mais pour moi, un gamin de 11 ans n'a rien à faire non accompagné dehors à 20h15 ou 20h30. Pas du tout. Alors, c'est sûr que dire ça, c'est surréaliste, mais comme le dit Robert Ménard, les indignations sont à géométrie variable. Ce qui est valable à Pointe-à-Pitre n'est pas valable à Béziers et réciproquement. Alors maintenant, il va falloir faire une carte de France, et des dom-tom bien évidemment. Où peut-on faire un couvre-feu pour les mineurs et où ne peut-on
vous
pas?
Vous ne croyez pas si bien dire, parce que Arthur de Vatrigan, quand on interroge les Français, 67% des interviewés veulent un couvre-feu généralisé pour les moins, alors là, de 17 ans.
Non, mais merci, non.
Non, là, ça commence. Là, la question qui se pose, c'est à partir de quand ça devient un peu liberticide quand même.
C'est liberticide. Le problème, c'est que vous allez faire une loi. Donc, ça sera une loi ou un décret. Donc, imaginons, vous trouvez un gamin qui a 12 ans et demi dans la rue à 23 heures. Il est en situation illégale. Mais je veux dire, quand il tabasse une grand-mère pour lui dépouiller, il est en situation illégale. Quand il va insulter un policier, il est en situation illégale. Quand il va voler dans un magasin, il est en situation illégale. Donc là, en fait, vous allez rajouter une règle que déjà les règles précédentes ne respectent pas, qui sont des règles encore plus importantes. Donc, à quoi ça sert ?
Donc quoi ? C'est un constat d'échec ?
Mais vous allez créer des règles où ça va être, encore une fois, les gens bien élevés qui obéissent et qui sont responsables qui vont l'avoir. Alors, encore une fois, 13 ans dans la rue à 23h, il faut vraiment qu'il y ait une circonstance très particulière pour qu'un gamin il soit tout seul. Donc, normalement, ça n'existe pas. Mais vu comment ça part, et là on dit jusqu'à 17 ans, pardon, moi, ma fille qui a 17 ans, elle a le droit d'aller au cinéma et elle rentre à 23h15 par exemple. Et j'ai pas envie, parce qu'il y a Mathéo et Kevin qui foutent le bazar quelque part, que ma fille soit privée de cinéma. Voilà, tout simplement. On sait très bien, encore une fois, qu'on l'a vu pendant le confinement. Le confinement, tout le monde le respectait. Bon, Saint-Denis, il y a des gens qui ne le respectaient pas très bien. Mais ce n'était pas grave, ils avaient le droit, eux. Bon, c'est toujours la même chose.
Alors, je vais vous dire qu'il n'y avait pas vraiment qu'en Saint-Denis, pardonnez-moi. Ouais. Les exemples dans certains milieux et certains quartiers étaient légion.
Philippe parlait d'enlever je n'ai plus le terme
l'autorité
parentale.
Si on ne s'occupe pas de ses gosses,
vous avez déjà.
On a le droit de faire une déchéance d'autorité parentale.
Dans le code pénal, article 217-17, vous pouvez condamner les parents qui se soustraient à leur obligation légale. Ça
n'a
jamais été appliqué.
Mais j'adore article sous-tiré, etc. Mais
non, ça existe.
Mais je suis d'accord.
Ça n'a jamais été appliqué.
Mais alors, la question, c'est donc, quand on dit couvre-feu généralisé, donc on fait assaut d'autoritarisme et constat d'échec, je suis d'accord avec vous.
Non, ça ne sert à rien, les lois existent.
Mais oui.
Ça, ce que dit Arthur est très important. On va faire peser une contrainte qui n'est pas un peu liberticide, qui est liberticide sur tout le monde, par incapacité de faire le travail avec
de l'État. Hein.
Le travail de l'État, ouais. C'est ça. Donc, on emmerde tout le monde pour quelques perturbateurs et quelques parents irresponsables. Parce qu'un gamin de moins de 13 ans dehors, c'est tout de suite une enquête sociale, administrative sur les parents, voire plus si l'enfant en question commet des actes illégaux. Tout de suite. Et c'est cet angle mort. Moi, j'ai l'impression que depuis que je couvre la politique, j'entends parler de responsabiliser les parents, de sanctionner les parents. Ça a été fait un tout petit peu sous Nicolas Sarkozy et François Hollande a tout de suite supprimé cette mesure en expliquant ça ne marche pas. Manque de peau, on n'en sait rien puisque ça n'a pas été appliqué, les juges étant réticents à l'appliquer. Alors arrêtons de dire
comme
ça.
Les peines planchers.
Exactement.
Oui. On ne sait pas.
La fermeté, ça ne marche pas.
Exactement. Oui.
Vous avez
mais on ne l'a pas essayé.
Non.
On n'a juste pas essayé.
L'avis de Maxime Thibault, juste après les titres de Mickaël.
Gabriel Attal souhaite simplifier les démarches administratives. Le Premier ministre s'est exprimé depuis Sceaux et a détaillé sa feuille de route pour une, je cite, débureaucratisation de la France. Il souhaite notamment placer l'intelligence artificielle au service des Français. Une première nuit de couvre-feu pour les mineurs est à Pointe-à-Pitre et elle s'est déroulée dans le calme. Depuis hier soir, les moins de 18 ans n'ont pas le droit de sortir entre 20h et 5h du matin sous peine d'une amende de 750 €. Et puis l'autoroute A13 va rester fermée au moins jusqu'à mardi prochain entre Paris et Vaucresson. La préfecture doit faire un nouveau point vendredi. Cette parcelle est fermée dans les deux sens depuis la semaine dernière après la découverte de fissures sur la chaussée.
Alors justement, vous en parliez, Mickaël, et c'était l'objet de notre débat. Couvre-feu, solution, panacée. Regardez les explications de Clotilde de Payet et ce sondage où vraiment une grande majorité des Français est vraiment pour un tour de vis. Mineurs, il faut vraiment s'entendre sur l'âge. Hein, parce que pour Béziers, c'est moins de 13 ans. Moins de 17 ans, on passe à autre chose. Oui. Regardez.
C'est une mesure de fermeté qu'a pris le maire de Béziers pour lutter contre la délinquance. Un couvre-feu mis en place hier soir et ce jusqu'au 30 septembre prochain. Plusieurs quartiers prioritaires sont concernés. Le centre-ville, le quartier La Devèze ou encore l'Iranguet. Un couvre-feu qui interdit à tout mineur âgé de moins de 13 ans et non accompagné par un adulte de se trouver dehors entre 23h et 6h du matin. En 2014, Robert Ménard avait déjà pris une telle mesure qu'il avait dû retirer à la suite d'une décision du Conseil d'État, au motif que la ville de Béziers n'avait pas apporté d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans. Aujourd'hui, Robert Ménard appuie sur la nécessité de cette mesure pour assurer la sécurité de sa ville, fortement touchée par la délinquance.
C'est-à-dire qu'en attendant que Emmanuel Macron lance formellement le Grenelle sur l'hyperviolence des jeunes, certains maires agissent. Et quelle que soit l'étiquette, hein, Christian Estrosi, Robert Ménard, etc. C'est important de le dire.
Alors, il faut effectivement, c'est une mesure de police, il faut effectivement démontrer un trouble existant à l'ordre public dans sa commune. Hein. Toute mesure de police est contrôlée dans sa nécessité, dans sa proportionnalité. Et c'est pourquoi M. Ménard avait été, à l'époque, du moins sa décision, avait été censurée, in fine, par le Conseil d'État. Moi, je m'interroge sincèrement sur l'opportunité d'un couvre-feu généralisé. Si on parle d'un couvre-feu généralisé, globalement, quand vous êtes gendarme, que vous vous promenez en zone rurale, que vous voyez un gamin de 10, 11 ans tout seul le soir, bah, vous faites quoi ? Vous arrêtez, vous lui demandez ce qui se passe. Et si vous voyez qu'il est tout seul, vous le raccompagnez chez ses parents. C'est ce qui se fait depuis Mathusalem lorsqu'un gendarme croise un mineur.
Oui.
Mais ce qui se passe réellement, est-ce qu'on ne peut
là,
pas
ils
dire
sont, pardonnez-moi, l'expression, ils sont en grappe. Quelque part, et on comprend
c'est
bien.
Ça. C'est les vrais troubles. Voilà, alors, ça. Les troubles dans les zones rurales, dans la mairie, ou sur le stade, au city, où les gamins font un peu l'épître le soir, surtout l'été, les gendarmes, pareil, ils passent, ils s'arrêtent, ils parlent avec les jeunes, ils leur disent vous pouvez rester, mais là, il est un peu tard, il est temps de rentrer, on va appeler vos parents. Et je peux vous dire que ça déguerpit rapidement pour les gamins qui ne sont pas sous la surveillance de leurs parents. Mais la vraie difficulté, en fait, c'est les gamins dans les zones un peu plus criminologène, où vous avez du trafic de stupéfiants et qui servent pour faire le chouf, qui servent pour être des vecteurs de troubles à l'ordre public parce que les parents n'ont plus la main dessus. Et comme le disait très justement Philippe tout à l'heure, ce qu'il faudrait, c'est vraiment une intervention sur ces gamins-là pour qu'on puisse rétablir en fait tout simplement l'autorité parentale qui n'a jamais existé ou même qui n'existe plus.
Vous avez
mais ça, c'est un problème qui est un peu plus global qu'un couvre-feu le soir.
Mais le mot autorité parentale, hier par exemple, nous avons diffusé la prise de parole de Gabriel Attal qui était dans cette intervention à Nice. Vous avez vu la teneur des échanges à un moment, c'est-à-dire qu'il demande, il y avait des jeunes, certains jeunes autour de lui, contraints et forcés d'être là, qui ne comprennent rien au fait qu'ils soient là, et qui sont, mais, et on leur parle comme si on devait s'excuser parce qu'on les a amenés ici. Comme, je veux dire, donc l'autorité, hein, c'est un grand mot, c'est joli, l'autorité, c'est comme le Grenelle, c'est comme il n'y a pas de vague, c'est comme tout ça, mais concrètement, c'est vrai, je trouve que hier l'échange m'a beaucoup interpellée, moi. Je ne sais pas si c'était votre cas.
Je n'ai pas pu le voir. Donc,
je vous le résume, à grands traits. Ils n'avaient rien à faire de ce qui se passait autour d'eux.
Mais ça correspond tout à fait à ce que dit le pédopsychiatre Maurice Berger, c'est-à-dire que ce n'est pas une perte d'autorité, une disparition d'autorité, ce sont des enfants qui ont été élevés sans aucune autorité, sans aucun repère, sans aucun cadre. Alors, ces cas-là, où on dit qu'ils sont désespérés, et dans ce cas-là, on attend qu'ils fassent une grosse bêtise, voire pire, et on les enferme le plus longtemps possible. Ou alors, on essaie, par des mesures qui, évidemment, ne sont pas parfaites et ne résoudront pas le problème en un claquement de doigts, de construire quelque chose qui nous s'apparente à un cadre.
Et les maires.
La solution des internats n'est pas mauvaise, je trouve.
Donc, internat, couvre-feu, quoi d'autre ? On va continuer
c'est
à en parler.
C'est pas comparable, les
non,
internats.
C'est pas la même chose, bien sûr. On va marquer une pause.
Les gens qui y sont.
Oui. On va aller dans un autre, si je puis dire, dans une autre ambiance. Quoique, à Sciences Po Paris, ou d'ailleurs dans d'autres universités. Très intéressant
c'est une autre
quand même
forme
comment
d'ensauvagement.
Jean-Luc Mélenchon a été accueilli. Ce qu'il a dit, parce qu'il a salué l'insoumission des étudiants de Sciences Po Paris. Alors je ne savais pas que c'était des insoumis à leur manière peut-être, ça nous a peut-être échappé. On va revenir sur ce qui a été dit surtout, et puis vous écouterez quelques, comment dire, où on lira la réaction par exemple de Madame Bergeau-Blaclair. Eux, ce sont les vrais insoumis,
de Sciences,
peut-être. Florence Bergeau-Blaclair, Alain Finkielkraut, qui sont interdits de citer à Sciences Po Paris. À tout de suite. Midi News, la suite. On a retrouvé la séquence. Ah bah vous ne l'avez pas vue.
Ça va peut-être être plus clair.
Plus clair. Ouais. Vous trouvez que j'ai pas été suffisamment clair.
Vous complètement, mais
mais bien sûr.
Manquer quelques détails.
Non, mais vous verrez cette séquence. Si vous ne l'avez pas vue, on l'a diffusée en partie hier. Je trouve que quand on parle d'autorité et qu'on ne recadre pas des jeunes, des enfants, là, vous allez voir qu'il vous manque de respect. Bon, voilà. Vous allez voir tout cela. C'est juste après les titres de Mickaël.
Un homme qui a menacé de mort l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel comparé aujourd'hui. Il avait publié un message après l'altercation entre le chef d'établissement et une élève qui refusait d'enlever son voile. Âgé de 26 ans, il se présente comme un militant pro-palestinien. La protection des données personnelles au cœur des préoccupations de la CNIL. La Commission nationale informatique et liberté a enregistré un record de plaintes en 2023 et l'année 2024 devrait être également très dense avec une menace importante autour des Jeux Olympiques. Et puis près de 250 habitats illégaux détruits, 4000 contrôles effectués et près de 100 personnes interpellées. C'est le premier bilan de l'opération Place Nette lancée mardi à Mayotte et qui doit durer jusqu'à la fin du mois de juin.
Merci Mickaël, à tout à l'heure. Le Premier ministre donc à Nice hier pour la question des internats avec une sorte de volontariat guidé. Et qui s'exprimait, vous allez le voir, avec des jeunes gens autour de lui. Alors des jeunes gens qui ont des difficultés, qui ont un parcours scolaire atypique, voire chaotique, qui n'ont pas encore basculé, et on espère qu'ils ne le basculeront pas évidemment dans la violence, donc un entre-deux, et écouter la discussion entre eux.
Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord ?
Non.
Non ? Bah, c'est rassurant, voilà. Parce que si vous étiez trop content d'être là... On se dirait, c'est peut-être pas utile pour vous. Non, donc pas content d'être là, mais là quand même. Parce que c'est vos parents qui vous ont dit, il faut y aller. C'est ça ? Qui veut témoigner ? Vas-y.
J'ai dit que ma mère m'a forcé, c'est tout.
T'as forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer ?
Ben, elle m'a dit que j'allais partir en vacances.
D'accord.
En mode, elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il n'y a rien.
Et pourquoi tu voulais pas ? Pourquoi tu voulais pas, toi ?
Est-ce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors.
Alors tout le monde est mort de rire. Mmh. Oui. La ministre à côté, le garde. Vraiment, je trouve ça, c'est dommage. Parce qu'il aurait pu, puisqu'il fait beaucoup de communication, peut-être profiter, si je puis dire, de cette séquence pour affirmer vraiment son autorité, expliquer ce que c'est l'autorité.
Le ton n'est pas le bon. Alors, effectivement, maintenant que j'ai vu la séquence. On s'adresse à des gamins envoyés là pendant les vacances scolaires. Hein. C'est une première que Gabriel Attal avait annoncée. C'est pas l'internat toute l'année, c'est spécifiquement...
15 jours.
Voilà. Pendant les vacances scolaires, donc à la place des vacances scolaires. Il me semble que la première efficacité d'une sanction, c'est d'être lisible. Ce gamin est en train de nous dire que sa mère lui a raconté des histoires pour le convaincre de partir. Je ne juge pas la mère, peut-être qu'elle n'avait pas d'autre moyen de le mettre là-bas, mais ça partait mal. L'autorité n'a pas à se dissimuler, à se travestir et à prendre des alibis. Tu t'es mal conduit, tu vas être puni.
Mais on alors, pas ça, en vacances. Alors, on n'était pas dans le foyer, mais alors là, nous sommes dans le cadre de quelque chose qui est filmé.
On continue dans la même ambiance.
Je suis d'accord, mais même pire, parce que par le gouvernement quand même, et par représentant de ce qui reste de l'autorité, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Non, mais je pense que trop de communication tue la communication. Et que déjà, on nous dit retour de l'autorité, Gabriel Attal parle avec les jeunes, et tout le monde se marre, y compris les jeunes. Excusez-moi, c'est pas l'école des fans. C'est pas un endroit pour rigoler.
Moi, ce qui me choque, c'est les ministres qui se marrent.
Mais les ministres qui se marrent aussi. Non, mais
Éric Ciotti de dos qui rigole aussi.
Oui, mais peu importe, tous les politiques.
La scène en elle-même, alors que les gens demandent un retour de l'autorité, est surréaliste. Elle est surréaliste. Moi, je pensais pas qu'on pouvait être autant déconnecté de la réalité du pays, de la réalité du terrain. Et cette scène. Elle montre à quel point ils sont déconnectés et à un niveau de déconnexion, mais ils sont quelque part entre la planète Saturne et la planète Uranus. Mais là, ils ne sont plus les pieds sur Terre et encore moins en France.
Nostalgie, mais imaginez un ancien Premier ministre il y a quelques décennies, mais imaginez dans cette même séquence, vous croyez qu'il se serait laissé
Raymond Barre.
Ainsi non, bien sûr. Raymond Barre,
j'imagine pas.
Je ne vois pas l'intérêt de filmer. Le gouvernement.
Pour nous de commenter.
Non, mais on peut faire un compte rendu. Mais mettre en scène les enfants ou les ados, alors qu'on explique en parallèle que le problème, c'est l'image. On sait que c'est une génération qui est complètement goinfée au narcissisme. Ça aide pas non plus. On sait que quand il y a une caméra, on fait semblant et on joue un jeu, donc ça aide pas. Vous avez des ministres qui sont assis au même niveau que les enfants. Donc déjà, au niveau du symbole, ça va pas. Ils le tutoient, on sait pas pourquoi. Et dire ce qu'ils ont oublié, c'est que l'autorité, c'est la légitimité, c'est tout. Voilà. Et la légitimité, ça fait juste depuis 89 qu'on la sulfate. Tous les ans, toutes les décennies.
L'autorité du politique, du maître, de l'enseignant, du policier, du pompier, exactement.
C'est la légitimité de la force, c'est la légitimité du statut, c'est la légitimité de plein de choses. Mais là, il n'y a aucune légitimité.
Non, puis, moi, il y a quelque chose qui me dérange, parce que ça montre Ça montre l'ensemble de la verticalité qui a disparu et l'horizontalité qui s'est imposée comme une solution malgré l'envie de réinstaurer de l'autorité. Ce qui est paradoxal parce que la communication est contraire à la volonté du fond. Le fond, c'est de réinstaurer de l'autorité par ces jours de, comment ils appellent ça, de sensibilisation. Alors qu'en réalité, la communication est purement verticale avec des gamins qui rigolent avec eux. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais gosse, on avait eu un député qui était venu dans notre classe. On avait tous le trouillomètre à zéro. Et je peux vous dire que la veille, nos parents nous avaient dit, si ça se passe mal, ça va mal se passer après l'école. Et on ne se serait pas permis d'être insolent comme l'ont été ces enfants avec le Premier ministre. Donc ce qui démontre en plus que ces enfants n'ont même pas notion de ce qu'est un Premier ministre, de ce qu'il incarne et de ce qu'il représente dans la société qui est la nôtre. Donc c'est un petit peu choquant. Et je trouve que Gabriel Attal aurait pu incarner l'autorité tout simplement en leur demandant de se lever ou en étant derrière un pupitre et en leur donnant la parole avec le respect, en les vouvoyant tout simplement. Et ça, je pense que c'est un vrai raté. Et paradoxalement, je pense pas que ça vienne de Gabriel Attal, je pense que ça vient davantage de ses conseils qui l'ont emmené là-dessus, parce que je me souviens que M. Attal, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, avait des positions politiques et d'incarnation de l'autorité qui étaient bien meilleures en termes de communication que ce qu'il a montré hier.
Pour être objectif, parce qu'il ne s'agit pas de caricaturer un déplaçant, mais enfin bon, je ne sais pas si ces quelques paroles vont venir contrebalancer ce qu'on a dit. Quand un gamin lui dit Macron, il lui dit non, il dit Monsieur Macron, enfin, heureusement d'ailleurs. Et quand il dit je ne connais pas la Marseillaise, tu vas l'apprendre. Mmh. Bon, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, etc.
Tu ne connais pas la Marseillaise, tu l'apprends.
Tu l'apprends.
Pareil,
voilà.
C'est la suite.
Hein. On peut décliner ad vitam aeternam.
Même la façon dont les gamins sont assis, avachis sur leur, chaise.
Hein. Ça, parfois, dans l'hémicycle, ça arrive aux parlementaires. Oui. Et c'est un mauvais exemple.
Exactement.
Bon, alors, ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient avachis, mais en tous les cas, ils ont applaudi Jean-Luc Mélenchon, accueilli véritablement comme une star, et qui donnait une conférence à Sciences Po après l'annulation de celle de Lille. Et surtout, après ces propos qui ont établi une sorte de parallèle entre le responsable de l'Université de Lille et Eichmann, l'artisan de la solution finale. Alors je me suis dit, il va profiter, si je puis dire, d'une tribune comme celle-là pour s'excuser. Non, il n'a pas réitéré sa comparaison, mais vous allez voir cette séquence. Il a fait l'éloge de l'insoumission. Et je vous pose la question, de quoi les étudiants de Sciences Po sont-ils le symbole? De quelle insoumission? Regardez. Le temple du politiquement correct qui s'imagine une assemblée révolutionnaire. Ça vous inspire quoi, Maxime Thébault? Vous n'avez pas connu les bancs de Sciences Po?
Non, je n'ai pas connu les bancs de Sciences Po. Mais à mon époque, Sciences Po, c'était une magnifique école.
Aujourd'hui, votre époque, c'est celle-là. Vous avez quasiment l'âge.
Non, mais il y a une quinzaine d'années, lorsque les étudiants allaient à Sciences Po, c'était une école prestigieuse qui menait vers les grands concours. Et en fait, c'était celle.
Oh, c'était déjà quand même.
En tout cas, moi, c'est l'image que j'en avais de petite provinciale.
Oui, mais la dérive remonte à l'époque des quoi, c'est-à-dire 1996.
C'est ça.
De ce que je voyais de mon prisme d'étudiant de Bourgogne, Sciences Po, c'était l'école prestigieuse qui permettait d'intégrer l'ENA. Voilà, c'était ça que je voyais. Mais effectivement, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est très loin tout simplement de cette logique de défendre les valeurs républicaines, de cette réflexion universitaire, parce que l'université c'est quoi? Et Sciences Po c'est quand même l'incarnation normalement du plus beau de l'université, hein, de ce que défend Sciences Po, c'est la nuance, c'est la réflexion permanente, c'est la recherche intellectuelle. Bon là, on en est quand même particulièrement très éloigné.
Ne ricanez pas comme le garde des Sceaux dans le
mot nuance qui...
Non mais on en est particulièrement très éloigné. En fait, on voit quoi? C'est que Sciences Po, effectivement, depuis, moi je l'ai vu comme marquant depuis une dizaine d'années, c'est complètement soumis à la logique woko-islamiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de défendre des minorités en dehors de toute nuance, et qu'on est sur la logique wokiste qui a gangréné les universités américaines, où vous avez le mâle blanc dominateur, le juif dominateur, parce que c'est ça aussi leur logique. C'est pour ça qu'ils sont à fond derrière la Palestine, en dehors de tout raisonnement, et de vous retrouver des gamins LGBTQI+, qui viennent défendre les gens du Hamas et de l'islamisme radical. Ils dureraient pas deux secondes s'ils étaient envoyés dans ce pays, ils seraient lapidés en place publique. Donc c'est complètement con, faut quand même le dire tel que c'est. Et donc c'était assez choquant. vraiment, c'est que quelqu'un qui a la brillance intellectuelle de M. Mélenchon, parce que c'est quand même la réalité, M. Mélenchon est un homme brillant, aille se pervertir, mais ça il nous le fait depuis des années, auprès de jeunes qui sont sur des logiques qui sont complètement contraires.
Alors, brillance intellectuelle, mais pardonnez-moi, mais vous avez raison, vous le pensez, obscénité et indécent sur la comparaison. Moi, je pensais vraiment qu'il allait revenir un peu là-dessus, parce qu'à gauche, ça provoque...
C'est que M. Mélenchon, il sait très bien les limites de la légalité et il en joue en permanence. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que d'un point de vue politique, je pense qu'il faut le combattre avec la plus grande des fermetés, que tous les républicains doivent le combattre. Parce qu'il devient un vecteur, en fait, de radicalisation dans notre pays, en étant à la bonne limite et en sachant pertinemment que son discours derrière entraîne de nombreux jeunes qui sont aujourd'hui poursuivis pour apologie du terrorisme ou autre, parce que eux ne connaissent pas les limites de la légalité.
Écoutons-le et vous réagissez juste après.
Que mes premiers mots soient pour la direction de cet établissement qui a permis que se tienne notre rencontre. Au contraire, d'autres qui, cédant aux pressions que par ailleurs ils dénonçaient, se sont mis à genoux devant la menace que, paraît-il, présentait ma présence et celle de Rima Hassan.
Pas un
Alors,
mot hein,
à propos de la direction de Sciences Po, depuis quand est-ce que c'est légal de payer un meeting, puisque ça revient à ça? Jean-Luc Mélenchon tient un meeting, il n'est pas candidat lui-même aux européennes. Rima Hassan est septième sur la liste insoumise. Et on est en période électorale, on en sait quelque chose dans les médias. Alors depuis quand est-ce que c'est avec l'argent public, puisque Sciences Po n'est pas privé, qu'on finance des meetings, une salle gratuite, un public, des lecteurs, ce ne sont pas des mineurs, c'est une
affaire. C'est ce qui vous dérange. Moi, je préfère que tout le monde puisse y aller.
C'est d'abord la...
Et après, c'est un débat.
Pardon.
Quand même, les universités.
Pardon. Pas en période électorale.
Pas le lieu du débat public, politique.
Pas en période électorale.
Science. Ah, d'accord.
Pas en période électorale.
Là, d'un point de vue légal,
c'est la base.
D'un point de vue purement légal, il faudrait qu'il y ait une délibération de Sciences Po qui prévoit que la salle est accessible à l'ensemble des candidats. Donc, il faudrait que M. Bardella, demain, puisse aller faire.
Mais je crois que Sébastien Chenu a pu y aller, me semble-t-il. Je vais vérifier.
Une fois, c'était pas en période électorale, si je ne m'abuse, là, j'insiste, pardon, je suis un peu règlement, mais ça me paraît quand même...
Ah ben, je peux vous assurer que le règlement pour les médias, il est tellement strict qu'on peut quand même s'interroger sur d'autres enceintes.
Non, c'est très intéressant, c'est notre ami qui disait que c'était l'antichambre de l'ENA. Ce que j'espère dans tous ces jeunes insoumis qui disent l'insoumission maintenant, c'est Sciences Po... Ouais. Que quand dans quelques années ils seront diplômés et qu'on leur proposera une imposte dans une boîte du CAC 40 avec Golden Hello, Golden Parachute, retraite chapeau, bonus et stock options, au nom de leur insoumission quand ils étaient jeunes, ils refusent ces postes.
Ne dites pas ça parce que ça commence à se voir
le plus odieux et le plus
dans les écoles de commerce.
Non mais ce serait bien qu'ils fassent quand même preuve de cohérence. Ça fait pas de mal une fois de temps en temps, non?
L'idée est de faire de Gaza le thème de la campagne électorale des européennes, je précise. Mmh. Et je rappelle à chaque fois dans cette émission qu'il ne s'agit pas ici de critiquer, attention, un soutien à la Palestine. C'est tout à fait libre et légitime quand on voit aussi le bilan humain. La question, c'est que, évidemment, pour Lille, l'affiche de Lille, c'était nier l'existence d'Israël. Jean-Luc Mélenchon n'est pas revenu sur le parallèle qu'il a effectué, qui ne tombe pas, vous avez raison, sous le coup de la justice. Pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé la phrase. Il ne fait pas un parallèle direct, évidemment.
Il est malin.
Il est malin sur la déclaratif. Par contre, on dit qu'il est intelligent, cultivé et tout. Ça, c'est pas de doute. Par contre, je pense qu'il n'a pas lu Arendt, vraiment.
Ah oui, Anna Arendt,
il s'est trompé. S'il avait lu la banalité du mal et pas l'autre qui cite, il aurait compris la conclusion d'Arendt sur Eichmann, c'est quand même de dire qu'Eichmann a abdiqué la dignité de penser. Et que tout ce que montre Mélenchon depuis des années, c'est qu'il a abdiqué la dignité de penser. Après, il va à Sciences Po, il va voir ses électeurs. Je rappelle que 55% des étudiants de Sciences Po ont voté Jean-Luc Mélenchon. Si vous faites voter que Sciences Po, Jean-Luc Mélenchon est au pouvoir. Donc il le sait très bien, il va aller voir. Ensuite, on dit qu'il y a une offensive de la gauche radicale. On parle de 96 pour Sciences Po. Je peux remonter dans les années 60, si vous voulez, pour l'université. Ça fait très très longtemps que la gauche radicale tient le pouvoir des universités. Et là, on parle des thèses décoloniales et wokistes. Si elles peuvent émerger, c'est parce que vous avez une alliance des chercheurs, des universitaires, avec les associations. Comme en 2003, le thème islamophobie est sorti et a été propagé partout, parce que c'est un chercheur du CNRS qui, en bossant avec des associations, l'a fait émerger. Je peux vous rappeler aussi, parce qu'on va célébrer...
Vous avez raison, mais à l'époque, le d'où tu parles n'était pas racial. C'est-à-dire que si vous étiez riche, vous n'aviez pas droit à, vous n'aviez pas droit à la parole.
Rappelons
si
combien il faut payer pour Sciences Po par an.
Oui, il y a des bourses aussi.
Et oui, d'accord, mais c'est 15 000, 20 000.
Ça fait très, très longtemps que...
L'insoumission coûte cher.
Le racisme change la donne, mais par contre, ça reste toujours l'extrême-gauche qui est au pouvoir. Je vous rappelle, on va fêter les 70 ans de... Non, c'est pas la même, c'est les fils d'eux. C'est juste les révolutionnaires qui coupent la tête.
C'est
les enfants de la gauche qui coupent la tête de leur père, comme tous les révolutionnaires, et qui, à chaque fois, vont un peu plus loin. Mais je vous rappelle, dans les thèses de minorité, on va fêter les 70 ans de Dien Bien Phu. Il y en a un qui s'appelle Georges Boudarel, qui, en termes de collaboration, n'a jamais fait plus monstrueux, s'est barré dans le camp 113 où il a zigouillé 278 Français en bossant pour les Viet Minh. Il rentre en France, qu'est-ce qu'il fait ? Pour le remercier, on lui file un titre de maître de conférence à Paris 7 et on lui file un titre de chercheur au CNRS. Et ça, c'est dans les années 60. Donc l'offensive de la gauche radicale et la passion pour les minorités, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, vous avez raison. Et la question, c'est comment combattre ? Attention, bataille politique, idéologique, des idées. Vous allez voir qui sont les vrais insoumis, je vais vous en parler. Ah. Et tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
Kenji Girac a livré un témoignage confus aux enquêteurs. Le chanteur qui va mieux a été opéré hier près de Bordeaux après une blessure par balle au niveau du thorax. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Gabriel Attal souhaite simplifier les démarches administratives. Le Premier ministre s'est exprimé depuis Sceaux et a détaillé sa feuille de route pour une, je cite, « débureaucratisation de la France ». Il souhaite notamment placer l'intelligence artificielle au service des Français. Et puis la province la plus peuplée de Chine est en alerte rouge après des pluies diluviennes, des intempéries qui ont déjà fait au moins 4 morts et entraîné des dizaines de milliers d'évacuations dans le sud du pays. Les autorités ont mis en garde contre un risque de crue très élevé.
Merci Mickaël. Alors qui sont en fait les vrais rebelles ? Peut-être ceux qui n'ont pas le droit de citer justement à Sciences Po. Alors la liste est longue. Quelques-uns que l'on connaît, Alain Finkielkraut, Florence Bergeau-Blaclair qui a réagi. Vous allez voir ce qu'elle a dit sur le réseau social X. C'est l'auteur du livre « Les réseaux fréristes ». Et d'ailleurs, elle s'adresse directement au Premier ministre. « Je suis docteur en anthropologie universitaire. » Vous savez qu'elle est liée au CNRS. « Et je ne suis pas la bienvenue à Sciences Po Paris. En revanche, le leader d'un parti politique de surcroît antisémite, dit-elle, et pro-islamiste, peut-il organiser une conférence ? Est-ce normal ? » Et elle interpelle aussi, je pense, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui est, il faut le dire, depuis sa nomination, aux abonnés absents totalement.
Oui.
Totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu... Non, d'ailleurs, c'est difficile de trouver les noms des
Madame Rotaillot.
Sylvie Rotaillot, elle est comme Frédéric.
Peut-être pense-t-elle.
Elle est comme Frédéric Vidal qui a précédé comme ministre de l'Enseignement supérieur, qu'on n'entendait pas jusqu'au moment où elle a découvert l'existence de l'islamo-gauchisme. Alors là, tout. Le corps universitaire lui est tombé dessus, CNRS en tête, CNRS auquel elle avait demandé de mener une enquête sur la réalité.
Comment vous expliquez
l'islamo-gauchisme ? Comment le résultat a été, ça n'existe pas. Curieux ?
Oui,
curieux.
Bizarre.
Elle cherche toujours. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas plus d'indignation sur le deux poids, deux mesures, quelle que soit la bataille des idées ?
Le trouillomètre à zéro. Ouais.
Mais c'est quand même incroyable, ça saute aux yeux de tout le monde.
Oui.
Mais... Un minimum de bonne foi. Non, mais... ferait condamner le fait qu'il y ait que certaines personnalités ne puissent pas avoir accès. Et puis on peut ajouter Sylvia Nagasinski et tant d'autres, pour d'autres raisons.
Paul Melun qui a été banni à Nantes.
Dont vous avez parlé courageusement.
Oui,
François Hollande, effectivement. Oui.
Merci de le terme courageux m'honore, mais il y a des choses qu'on peut faire des choses beaucoup plus courageuses que ça.
Je suis d'accord, mais aujourd'hui, le courage de dire les choses et de dénoncer, vous l'avez fait. Paul Melun, qui quand même est un souverainiste de gauche, n'a pas pu tenir conférence ou ça
À Nantes.
À Nantes.
Non, mais à Nantes, où la présidente de la faculté est d'une très grande neutralité, puisqu'elle avait envoyé un mail à tous ses étudiants entre les deux tours de la présidentielle de 2022, les appelant à voter pour battre Marine Le Pen.
Ils l'ont tous fait.
Ce qui prouve que la neutralité du service public. Je vais vous citer Hervé Villard, c'est comme Capri, c'est fini.
Ah, ça nous manquait. Bah oui, alors là, au niveau citation, on peut faire mieux. Hein.
Ce que dit Philippe est très vrai. Hein. Pratiquement tous les présidents d'université ont fait cela. Hein. Oui. D'appeler à voter contre Marine Le Pen entre les deux tours. C'était quand même une violation. C'est une violation du principe de sincérité et de neutralité.
La conférence des présidents ne l'a pas fait.
Je me pose la question. Mais ça démontre quand même.
Imaginez si un président de syndicat de policiers avait dit il faut voter pour Marine Le Pen entre les deux tours, le scandale que ça aurait fait. Là.
C'était pas bien pensant.
Mais après, je pense qu'il y a quand même une petite responsabilité. C'est bon, évidemment, l'extrême gauche a le pouvoir, le monopole et l'utilise. Mais si vous regardez dans les endroits où on critique l'extrême gauche qui a le pouvoir, la culture, l'école, l'université et la SNCF, par exemple. Bon, et ben, sauf que le problème, c'est que c'est bien de critiquer ça, mais en fait, les bourgeois de droite qui critiquent ça, ils disent à leurs enfants de faire l'université, de faire l'école de cinéma, de devenir romancier, d'être infirmière. Le problème, c'est qu'ils ont délaissé ce terrain-là depuis des décennies en leur disant vous allez faire du commerce, parce que ce qui est important, c'est le pognon, et ça, c'est pas bien, c'est pas assez bien payé. Ils ont délaissé ce terrain. Ils l'ont délaissé.
Ensuite,
ils ont été fascinés par un faux magistère que la gauche s'appropriait, et aujourd'hui, se réveiller en disant ah bah finalement le magistère il est peut-être pas si
la bataille est perdue parce qu'elle n'a pas été menée
et voilà bah oui
enfin en tout cas
aujourd'hui c'est la bataille
perdue.
Sur le terrain
comme si les petits gauchos de Sciences Po n'étaient pas aussi des bourgeois
si bien sûr mais des bourgeois qui
sont
allés
sociologiquement des bourgeois
ils sont allés
mais en revanche là vous avez raison qui a déserté le terrain c'est alors pas les intellectuels parce qu'on peut pas demander aux gens de risquer leur peau de risquer les violences parce qu'on en est là malheureusement et les partis de droite ont absolument capitulé
ça dépend qui. François-Xavier Bellamy ne cesse d'alerter sur ce sujet-là.
C'est un des rares,
mais je vous donne l'exemple.
Depuis
le
Gaulle, on leur a dit la droite, c'est le régalien, on va filer un os à ronger, la gauche, la culture et l'université. Et donc, ils récupèrent ça. Et aujourd'hui, la droite, qui a arrêté de penser depuis des années, se dit ah ben finalement, peut-être qu'on va mener le combat culturel.
Dans quelques instants, vous allez penser avec.
La droite a surtout participé de la destruction nationale. Il ne faut quand même pas l'oublier.
Vous allez penser avec un livre. Phénomène, un livre enquête qui est déjà en dans les librairies, c'est le livre Transmania. Alors, livre choc, je ne sais pas si vous l'avez lu, on a de larges extraits et c'est Sophie Audugé qui va venir nous en parler sur l'idéologie transgenre. Avez-vous,
citation pour remonter le moral, parce qu'on a quand même censé Sciences Po, que c'était grand, que c'était beau, c'était l'élite de nos téléspectateurs de droite qui font peut-être un complexe de n'avoir pas fait Sciences Po. Je citerai Audiard, un con de droite qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel de gauche assis.
Bon, sur ce, je ne préfère pas ajouter quelque chose, je crois que tout est dit. Bon appétit, restez avec nous dans quelques instants. Plusieurs sujets à venir, dont ce livre et Sophie Audugé sur l'école. A tout de suite.
Pour les années, peut-être.
Ah oui, c'est sûr.
Merci d'être avec nous. Il faut arrêter, Philippe, David, les citations, ne plus en finir. Il faut un petit peu rechercher. Mais vous en avez à chaque fois des nouvelles?
Ah non, celle d'Audiard, elle est ancienne.
Ouais,
la version originale, c'est Arthur qui me l'a rappelé, était dans Un taxi pour Tobrouk où elle était apolitique et après Audiard l'a un peu politisée. Mais c'était du génie, Audiard, quand même.
Ah bah, évidemment. Écoutez, vous nous en distribuerez d'autres tout au long de cette heure. Alors, on a des sujets pas évidents, si je puis dire. Il y a cet homme qui est jugé aujourd'hui suite aux menaces à l'encontre du proviseur Maurice Ravel, qui, je vous le rappelle, avait quitté ses fonctions pour raison de sécurité. Nous serons sur place au tribunal judiciaire de Paris avec Noémie Schulz. Là, on va voir et mettre avec vous également. On n'aura pas le jugement là, mais si je puis dire sur pièce et sur place, comment de telles menaces, de telles atteintes aussi à la laïcité sont jugées. Nous parlerons également d'un livre enquête qui crée la polémique et l'événement Transmania, écrit par Marguerite Stern et Dora Moutou, qu'on a reçu à la fois sur CNews et sur Europe 1. Et c'est Sophie Audugé qui nous en parlera notamment. Bonjour à vous, chère Sophie, et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et tout d'abord, le journal Rebonjour, Mickaël.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de ce journal, c'était il y a tout juste 200 jours, aujourd'hui, l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Le 7 octobre dernier, 1170 personnes ont été tuées et 133 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, parmi eux trois Français, Orion, Oad et Ofer. Écoutez, Olivier Jaoui, il fait partie de la famille d'Ofer Calderon et parle de traumatisme pour la société israélienne.
Ce 7 octobre a été un trauma d'abord pour la société israélienne. Ma cousine, la mère d'Adas, 80 ans, a été assassinée le 7 octobre. La nièce d'Adas, la petite fille de ma cousine Carmela, 12 ans, a également été assassinée le 7 octobre. Et on sait maintenant qu'elles ont été retrouvées mitraillées et brûlées, enlacées, toutes les deux dans l'abri, dans leur maison. Donc on doit vivre avec ça. Le retour des enfants d'Adas, 12 ans et 16 ans, Erez et Sahar, qui a 16 ans, cette jeune fille le dit encore, son corps est en Israël, mais sa tête est encore là-bas. Hein, 52 jours, 52 nuits de captivité, leur maison brûlée, et leur père toujours otage, avec au moins 130 otages. On a espoir encore, hein, on est obligé, et c'est vraiment terrible depuis 7 octobre.
Dans le reste de l'actualité, le Conseil de l'Europe et l'ONU appellent Londres à revenir sur son projet de loi qui vise à expulser les migrants illégaux vers le Rwanda, un projet approuvé cette nuit par le Parlement britannique. Après 2 ans de débat, les premières expulsions devraient avoir lieu au mois de juillet. Et au moins 5 migrants, dont une petite fille, sont morts la nuit dernière lors d'une tentative de traversée de la Manche. Le drame a eu lieu à 5h du matin quand un small boat avec plus de 110 personnes à bord a pris la mer depuis une plage du Pas-de-Calais. L'enquête a été confiée au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Voilà Sonia pour l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews.
Merci à vous Sophie Audugé, déléguée de générale de SOS Éducation, aux côtés de Judith Vintraube, avec Maître Maxime Thibault. Nous sommes avec Philippe David évidemment et avec Arthur de Batrigan. Je voudrais qu'on dise quelques mots encore puisque la situation évolue, en tous les cas l'enquête démarre et se poursuit et évolue rapidement autour de l'affaire. Maintenant, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, Kenji Chirac. Selon le communiqué du procureur publié lundi soir, je vous rappelle que le chanteur n'aurait pas pu s'expliquer, semble-t-il, ni sur les raisons de son achat, si c'est bien lui, de cette arme, ni sur les conditions dans lesquelles il l'aurait manipulé. Il maintient toujours que c'est un accident domestique, Kenji Chirac. Il est très, très difficile pour nos journalistes, pour nos reporters sur place, de pouvoir avoir les explications de ses proches qui ne parlent pas. Nous serons avec Augustin Donadieu dans quelques instants. Et tout d'abord, on va revoir un peu le contexte de cette affaire. Et on rappelle quand même, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Maxime Thibault, que c'est une enquête pour homicide volontaire, même pas involontaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si rapide à qualifier ? Comment est-ce qu'il y a des éléments probants qui vont aussi vite pour qualifier ça ?
Alors, j'imagine qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte. Effectivement, il faut qu'il y ait une prévention qui soit déterminée pour que les enquêteurs recherchent sur le terme de cette prévention les faits qui permettent de manifester la vérité judiciaire. Donc, effectivement, les premiers éléments de l'enquête, les premières investigations qui ont été faites ont permis de guider le procureur de la République vers des réquisitions plutôt dans un sens que dans un autre. Et effectivement, si on part sur un homicide volontaire, c'est que on a des éléments qui nous permettent de douter, en tout cas, d'avoir des suspicions en l'état de ce début d'information judiciaire sur la circonstance qui a peut-être eu cette infraction commise.
Il y a beaucoup de réactions. Il y a certains qui affirment que c'est toujours positif d'être attaché, en tout cas de vouloir protéger non pas sa communauté, mais son entourage. C'est aussi une culture qu'il n'a jamais niée, ni reniée au contraire. Malgré le succès, malgré tout ce qu'il a connu, il est toujours resté lié aux gens du voyage. Et d'autres qui affirment au contraire qu'il y a une loi du silence et qui est maintenant en train d'être opéré, visible dans le cadre d'une enquête. On va voir tous ces détails avec Augustin Donadieu dans quelques instants, mais tout d'abord, le rappel des faits.
Après des premiers témoignages confus et malgré la cause accidentelle évoquée par le chanteur, la justice ouvre une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Au lendemain du drame, des zones d'ombre interrogent les enquêteurs. À son arrivée à l'hôpital, Kenji Chirac revient sur l'incident. Il évoque un tir accidentel qu'il aurait lui-même causé alors qu'il manipulait un pistolet automatique acheté dans une brocante. Une arme retrouvée après les faits, dans un fossé vidé de son chargeur. Une thèse de l'accident soutenue également par des témoins sur place, se prétendant comme proche du chanteur. Les enquêteurs s'interrogent quant à eux sur les circonstances de l'achat de cette arme et sur les raisons qui l'auraient conduite à la manipuler au milieu de la nuit. Kenji Chirac est sorti du bloc opératoire dans la soirée ce lundi. Il devrait être entendu par les enquêteurs dès que son état de santé le permettra dans la journée.
Bien, nous serons avec Augustin Donadieu dans quelques instants. Nous parlerons aussi, j'attends la confirmation d'un communiqué LFI dans lequel Mathilde Panot serait convoquée pour apologie de terrorisme comme Rima Hassan.
Et comme Daniel Obono,
le temps de vérifier cela. Et tout d'abord, on retrouve là sur l'affaire Kenji Chirac, Augustin Donadieu. Augustin, vous nous disiez tout à l'heure que l'enquête quand même démarre, se poursuit avec probablement une audition de Kenji et Chirac. Et puis une audition qui sera peut-être plus compliqué pour les autres, parties prenantes, puisqu'on a appris ce matin que l'air où se trouvaient les gens du voyage a été vidé, tout simplement.
Effectivement, les 80 caravanes, au moins 70, ont quitté cette aire d'accueil des gens du voyage de Biscarros où s'est déroulé ce drame dans la nuit de dimanche à lundi. On sait que les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour recueillir le maximum de témoignages possibles et on imagine que les témoins étaient nombreux lorsqu'effectivement s'est déroulé ce drame de Kenji Girac qui a eu donc ce coup de feu dans la poitrine. Des enquêteurs qui devraient également interroger Kenji Girac, toujours hospitalisé à l'heure à laquelle je vous parle. Le parquet de Mont-de-Marsan précise qu'il sera entendu par les enquêteurs quand son état le lui permettra. Ce que l'on sait, c'est que son opération hier s'est bien passée. Les proches que l'on a rencontrés à la sortie de l'hôpital étaient soulagés. Ils nous ont dit il est tiré d'affaire, il va bien. C'était leur mot. Et depuis, eh bien, les versions diffèrent. Il y a vraiment la loi du silence parmi cette communauté des gens du voyage. Et on entend ici ou là des voyageurs qui viennent nous raconter eh bien, des versions plus ou moins différentes. Alors, certains parlent de tensions sur l'air des gens du voyage dans la nuit de dimanche à lundi, des tensions sur fond d'alcool, d'autres des tensions sur fond de jalousie. Et certains soutiennent la thèse de Kenji Girac qui dit qu'il a manipulé tout seul cette arme et qu'il a fait une erreur. Tout cela, les enquêteurs vont devoir vérifier tous ces propos. Le travail est colossal.
Merci beaucoup Augustin Donadieu. Évidemment, on va suivre cette enquête. Alors, nous sommes 4 semaines après que les chefs d'établissement au lycée Maurice Ravel aient quitté ses fonctions pour raison de sécurité. Et un jeune homme de 26 ans doit comparaître aujourd'hui, en ce moment même, pour l'avoir menacé sur les réseaux sociaux. Un message publié à la suite de la demande, je vous le rappelle, par ce responsable à une élève d'ôter son voile. Donc, message de menace de mort grave. Nous sommes sur place avec notre journaliste police-justice Noémie Schulz au tribunal judiciaire de Paris. Noémie, que risque cette personne aujourd'hui ?
Alors ce jeune homme de 26 ans risque jusqu'à 5 ans de prison, 45 000 euros d'amende pour provocation publique non suivie d'effet à commettre une atteinte volontaire à la vie. Il avait demandé il y a quelques semaines un délai pour préparer sa défense. Il avait été renvoyé en comparution immédiate devant la justice. Selon l'avocat du proviseur, il s'agit du frère d'une élève scolarisée au lycée Ravel. Et c'est elle qui lui aurait raconté l'incident entre le chef d'établissement et 3 élèves auxquels il avait demandé d'ôter leur voile. L'une d'elles avait refusé, ce qui avait entraîné une altercation. Choquée par ce qui lui avait été rapporté par sa sœur, qui toujours, selon l'avocat du proviseur, n'a pas assisté à la scène et en a donc fait un récit mensonger. Choqué, donc, cet homme de 26 ans avait posté un message sur les réseaux sociaux. Il est soupçonné d'avoir notamment écrit « Il faut le brûler, ce chien », des faits qui font bien sûr penser à une autre affaire, celle de l'assassinat de Samuel Paty, puisque souvenez-vous, tout était parti là encore du récit totalement mensonger d'une collégienne qui avait raconté à son père ce qui s'était soi-disant passé pendant un cours d'éducation civique et morale, un cours auquel elle n'avait pas assisté. Alors les enquêteurs, sous la direction du pôle national de lutte contre la haine en ligne, ont réussi à remonter la piste, à retrouver l'auteur de ce message. Il a été interpellé, il est donc renvoyé aujourd'hui devant la justice. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attente de son procès. Une audience à laquelle le proviseur ne va pas assister. Il est encore très inquiet après les menaces qu'il a reçues. Il a choisi de ne pas être présent pour des raisons de sécurité. Mais ici, vous avez des enseignants, des élèves également du lycée Ravel qui sont venus, nous disent-ils, en soutien de ce proviseur qui, depuis, a quitté l'établissement. Il a préféré quitter ses fonctions à la suite de cet incident.
Merci beaucoup Noémie Schulz. Noémie qui rappelle effectivement que ce proviseur est parti. D'abord, c'est sa décision personnelle, mais on imagine aussi le cadre dans lequel il est parti. Sophie Audugé, il avait été reçu par le Premier ministre et à l'époque, on s'était dit, mais enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps, trop peu, trop tard, justement. On verra ce que la justice va décider. Et au moment où on ne cesse de dire, en tout cas le gouvernement ne cesse de dire pas de vague, on espère que ça pourrait servir d'exemple. Enfin bon. Pour l'instant,
oui, enfin le pas de vague,
ouais, c'est, nous en sommes loin.
C'est un effet d'annonce, c'est de la communication, comme le fait souvent Gabriel Attal. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, c'est la stratégie du pas de vague qui est en œuvre à l'école. Tout un ensemble de faits ne sont pas déclarés, et donc on a une vision vraiment infime de faits qui remontent. Et cette situation, évidemment, elle va se poursuivre. Il y a des mesures extrêmement strictes qu'il faudrait prendre immédiatement et qui ne sont pas prises de toute manière. Donc on en aura d'autres, bien sûr.
qui ne sont pas prises malgré... Alors hier encore, hein, à Nice, le Premier ministre qui affirme c'est terminé et qui affirme à la fois les sanctions, que les professeurs sont soutenus, etc. Mais ça rejoint presque un petit peu ce dont on va parler avec ce livre, Transmania. Je l'ai précisé tout à l'heure, livre enquête, livre événement, livre choc. Bref, accusé par SOS Homophobie d'être transphobe, deux auteurs, Marguerite Stern et Dora Mouto, véritable succès de librairie. D'ailleurs, si vous cherchez à le trouver... très difficile en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce livre ? D'abord, vous, Sophie Audugé, vous avez souvent parlé de cet entrisme sur l'idéologie transgenre à l'école. Est-ce que c'est conforme ? Est-ce que vous... Vous savez évidemment de cet entrisme à l'école.
Oui, alors évidemment, c'est bon. Évidemment, j'ai le livre. Évidemment, j'ai pu m'entretenir avec Dora Mouto et Marguerite Stern il y a plusieurs mois avant que le livre sorte, bien sûr. Nous, au niveau d'SOS Éducation, on était les premiers à réagir, hein, puisqu'il y a eu cette fameuse circulaire Blanquer en septembre 2021 qui considérait que la transidentité était un fait et qu'elle devait donc être à la fois enseignée aux élèves le plus tôt possible et qu'on devait prendre en considération le ressenti de l'élève et donc son changement, sa transition. Et donc, à ce moment-là, ça a été vraiment cataclysmique, en tous les cas pour nous, au niveau d'SOS Éducation, puisqu'on n'a pas compris pourquoi cette circulaire qui n'avait pas sa place dans l'école, évidemment, eh bien, d'abord prenait une forme d'un document de 11 pages qui était un plébiscite hein, sur l'idéologie transaffirmative, sur cette négation hein, de l'identité du sexe et de la réalité du sexe biologique et cette mise en avant d'un dogme qui est celui d'un genre qui serait ressenti avec aucune réalité du sexe biologique. Donc on a fait, nous, un travail important aussi et Dora Mouto et Marguerite Stern ont fait un travail qui est plus récent, plus d'actualité, puisque nous, en 2021, on avait produit une note de 90 pages qui montrait que déjà on savait qu'il y avait un danger à emmener les jeunes enfants dans une transition à la fois sociale, c'est-à-dire dans l'école, mais également médicamenteuse, mais également chirurgicale.
Et je précise que vous parlez des jeunes enfants. Hein.
On ne parle
s'agit pas d'adultes du tout ici.
Mais en fait, voilà, ce qui est très important de bien préciser, et c'est pour ça que la censure, parce que c'est bien cela dont il s'agit, il faut savoir que ce livre... a des affiches évidemment dans les villes de France, hein, c'est de la communication classique d'un éditeur, et on a la mairie de Paris et la mairie de Lyon qui ont demandé à Deco, une entreprise privée, hein, d'enlever immédiatement ces affiches parce que ce livre serait transphobe et homophobe. Alors il n'est pas du tout transphobe et homophobe, voilà, je le montre pour qu'on le voit bien, voilà, il n'est pas du tout transphobe et homophobe. D'ailleurs, Marguerite Stern et Dora Mouto sont des féministes, hein, voilà. Plutôt de gauche, hein, des féministes qui à un moment ont dit, bah non, une femme est une femme, elle a un sexe de femme, il ne peut pas y avoir de femme avec un pénis. Et à ce moment-là, Dora Mouto a vécu eh bien, une mort sociale, hein, elle a perdu tous ses contrats et elle s'est dit, mais là il y a quelque chose qui tombe
d'une violence,
c'est-à-dire
incroyable.
On est dans quelque chose qui nous dépasse tous, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler, il y a donc là véritablement une censure de la parole, une censure de la liberté d'expression.
Je voudrais ajouter que c'est très étayé, que c'est argumenté, que c'est chiffré.
Oui, alors c'est une enquête, voilà, c'est très important, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un moment où il y a d'autres livres qui ont été écrits également dans d'autres pays du monde, hein, par des spécialistes également. Donc là, elles arrivent à un moment où il y a quand même un peu des chiffres. Donc l'enquête est vraiment fouillée. Il y a des chiffres également sur la France, ce qui est important. Et puis, elle montre aussi l'impossibilité de pouvoir présenter cette réalité là.
Deux femmes féministes.
Oui.
Plutôt de gauche, tout à fait,
oui.
Et qui se sont construits avec ce parcours-là et qui sont aujourd'hui véritablement, quand vous avez dit mort sociale, c'est le cas.
Hein. Ah oui, absolument.
C'est d'une violence, je sais pas, ce qui nous regarde.
Menacée aussi, ouais. Également.
Menace.
Physiquement, oui.
C'est la culture de l'annulation.
Exactement, de l'effacement. On va continuer à en parler.
Faire une conférence à Sciences Po. Non, je posais la question, c'est pour un ami.
Tout à fait. Ben, malheureusement, tout le monde a la réponse. Les titres avec vous, Mickaël.
Un professeur agressé et menacé de mort par un de ses élèves en plein cours. Ça s'est passé hier au collège Bellevue de Toulouse. Le parquet a ordonné l'interpellation et le placement en garde à vue de l'adolescent. Gabriel Attal souhaite simplifier les démarches administratives. Le Premier ministre a détaillé sa feuille de route pour une, je cite, « débureaucratisation de la France ». Il souhaite notamment placer l'intelligence artificielle au service des Français. Et puis l'autoroute A13 va rester fermée au moins jusqu'à mardi prochain entre Paris et Vaucresson. La préfecture doit faire un nouveau point en fin de semaine. Cette parcelle est fermée dans les deux sens depuis la semaine dernière après la découverte de fissures sur la chaussée.
Alors, et je vous le disais, puisque c'est confirmé, puisqu'à l'instant je vois le communiqué justement de la France insoumise. Donc après Daniel Obono, Rima Hassan. C'est Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, qui est convoquée pour apologie de terrorisme. Ça devient, si je puis dire, en tous les cas, un phénomène. C'est quand même la troisième personnalité dans ce parti. Elle dit qu'elle a reçu donc une convocation, alors qu'elle va être auditionnée sur des propos. Elle alerte solennellement sur, dit-elle, cette instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques, j'allais dire classiques. Maître, c'est loin d'être anodin. Et quand on entend apologie de terrorisme, on parle de responsable politique, nous sommes dans des situations, si c'est avéré, extrêmement graves.
Oui, vous avez raison de dire si c'est avéré, parce que c'est une mise en cause.
Et elle est présumée innocente.
Et effectivement, elle devra peut-être s'en expliquer devant la justice si le parquet décide de la renvoyer devant des juges. D'une part, effectivement, ce qui me dérange, et je le dis sincèrement, c'est qu'il y a une immixtion du pouvoir judiciaire en période électorale. Et habituellement, on a une certaine retenue du pouvoir judiciaire et pendant les périodes électorales, même si on a eu des exemples contraires lors des présidentielles et lors d'une présidentielle il y a bientôt 10 ans, normalement, on a ce petit retrait. Et là, on ne l'a pas. Et ça me dérange d'un point de vue purement de respect des libertés fondamentales et de
l'État. Mais c'est tout à votre honneur, parce que je ne sais pas si l'inverse aurait été vrai.
Tout à fait. Je ne pense pas que l'inverse aurait été vrai, effectivement. Et après, effectivement, s'il y a lieu d'aller condamner des propos qui ont été tenus et qui ont été contraires à nos lois, on peut le faire, mais après la période électorale, il faut quand même savoir qu'on a des délais de prescription qui sont un peu longs et qui auraient permis de le faire ensuite. Donc ça, c'est juste un petit point de vue de procédure et de respect des élections. Après, effectivement, sur le fond, il est vrai, et on l'a déjà dit plusieurs fois, que les propos tenus par une partie des élus LFI sont à tendance problématique quand on sait qu'ils sont pas loin de soutenir le Hamas, hein, ou ils le soutiennent de pas très loin. Donc, et les propos qui ont été tenus autour du 7 octobre aussi. Donc effectivement, qu'après le parquet soit gêné, qu'il y ait des ouvertures d'informations, d'enquêtes sur ce fondement, à savoir l'apologie du terrorisme, peut s'expliquer aussi.
Mais donc, comment de telles enquêtes peuvent-elles être menées? Parce qu'il ne s'agit pas... est-ce qu'il s'agit de voir s'il y a des liens intellectuels, attention, hein, je ne suis pas en train de dire avec...
Ah non, c'est pas... C'est beaucoup plus simple que ça.
C'est les propos qui sont passés au tamis de notre loi.
Alors, moi, j'ai eu des dossiers sur... J'ai déjà eu des dossiers pour apologie du terrorisme. C'est très simple. Hein. En fait, vous avez l'enquêteur qui va extraire le propos qui a été tenu, qui va auditionner la personne mise en cause tout simplement pour savoir si c'est effectivement elle qui l'a dit ou pas, si elle reconnaît avoir tenu ses propos, lui poser des questions un peu de contexte aussi. Pourquoi vous avez dit cela? Est-ce que vous pensez telle ou telle chose? Est-ce que vous êtes contre l'État d'Israël, par exemple? Ou est-ce que vous êtes pro-Hamas? Ça peut être des questions contextuelles comme celle-ci. Et ensuite, le dossier envoyé pour étude au parquet, qui, en fonction des réponses et en fonction de ce qui a été dit, va décider de renvoyer devant un tribunal.
C'est très intéressant de voir si elles maintiennent leurs propos devant les enquêteurs, ou alors si c'est juste une posture politique, voire politicienne ou électorale en période de...
Apprécier, et c'est vraiment très compliqué comme matière, parce qu'il faut vraiment apprécier mot pour mot si effectivement on est sur de l'apologie ou si on est sur de la liberté d'expression. Ce que sait très bien faire M. Mélenchon, en demeurant.
J'ai une question de droit, comme on a un éminent avocat avec nous, l'immunité parlementaire, parce que Rima Hassan n'est pas parlementaire, mais Mathilde Panot, oui.
Alors, il y a réunion du bureau, je crois que c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui peut décider, et dans ce cas-là, c'est levé, et la justice...
Effectivement,
d'accord, ok. Voilà. Même pour un cas comme ça...
Évidemment, graves, en tous les cas... Mais la vraie question, elle est en fait, moi je trouve, démocratique, de liberté, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on doit combattre, on... Attention, quand je dis on, c'est un générique, hein. Est-ce que les partis, ou que leurs adversaires politiques doivent les combattre sur le terrain des idées, ou est-ce que la justice... de faire son entrée, Arthur de Vatrigan, dans cette campagne.
Il ne faudrait pas en faire des martyrs non plus. C'est un peu le problème, parce que c'est quand même aussi leur ligne de conduite et leur ligne de communication. On le voit, regardez, le système est contre moi. Ce qui est un peu embêtant. Après, forcément, on a un peu envie de dire la liberté d'expression est importante, mais ça fait toujours du mal de le dire avec la France insoumise, parce que ce n'est pas leur domaine de prédilection. Et ils ont quand même deux sports favoris. Ouais. C'est un, la compromission, et deux, d'envoyer tout le monde à la 17e à chaque fois. Ouais. La France insoumise passe son temps à envoyer des journalistes, des politiques à la 17e chambre correctionnelle. La liberté d'expression, ils n'aiment pas ça. Donc, après, là, on est sur une apologie du terrorisme. Honnêtement, c'est une convocation, c'est un truc assez... Ils ont mis en avant et communiqué sur leur convocation.
Oui. Oui, j'apporte un élément, en fait, et c'est le communiqué qui le dit, c'est que cette convocation, elle a trait à une communication officielle qui a été faite par la France Insoumise, qui date du 7 octobre, évidemment.
C'est leur communiqué écrit.
Voilà, c'est le fameux communiqué juste après où ils affirmaient que le Hamas était un groupe de combattants et qui n'est pas un groupe terroriste. Et c'est sur la foi de ce communiqué donc que la du groupe parlementaire.
Une convocation, c'est rien. Ils sont même pas obligés d'y aller s'ils n'ont pas envie d'y aller. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans leur
stratégie, les lois.
Non, un groupe de résistants, pardonnez-moi, pas de résistants.
Vous n'êtes pas obligé d'y aller.
Quand on vote les lois, on a quand même un devoir d'exemplarité, non?
Non, pas forcément. Non, mais c'est pas un manque d'exemplarité.
Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'on aurait dit si.
C'est pas un manque d'exemplarité de ne pas se rendre à une convocation qui n'est pas obligatoire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le parquet qui a communiqué, c'est pas la police qui a communiqué, et c'est pas obligatoire. C'est eux qui communiquent, c'est une stratégie de leur part. Et nous, on rentre dans leur stratégie, dire regardez, un tel, puis encore un tel, puis encore un tel. Ils vont jouer leur position de martyr, de au nom de la liberté d'expression, on ne peut plus rien dire.
Nous ne tairons pas, aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien.
Ça s'appelle de la politique et de la communication.
En tous les cas, Gaza est devenu le thème central d'élections européennes, je le précise.
Mais ça sera les élections françaises aussi en 2027 avec...
On va marquer une pause, allez-y.
C'est la problématique du législateur. Moi, c'est mon intime conviction. Je suis pour une liberté d'expression totale pour les parlementaires. D'accord. C'est-à-dire, peu importe ce qu'ils disent, après, ils doivent être jugés dans les urnes. Pour les parlementaires, je dis bien. Après, il y a des limites pour tout citoyen, mais pour les parlementaires, après tout, les citoyens.
Même un parlementaire pourrait faire l'apologie de la pédophilie, par exemple ?
Mais s'il dit les pires des atrocités, il ne sera pas réélu. On jugera l'intelligence.
Alors, sur cette atrocité-là, oui. Sur d'autres, si je puis dire, je ne ferai pas le pari de l'intelligence. Je ne le dis pas du tout pour les électeurs, mais on ne sait jamais. Je veux dire, parfois dans les urnes, on ne met pas le bulletin pour de bonnes raisons parfois.
Moi, j'ai l'intime conviction que la tendance à la censure est souvent plus facile que celle de la liberté.
Mais nous sommes d'accord et ici, nous défendons aussi la liberté d'expression de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan, de Mathilde Panot et de Daniel Obono. Vous voyez la différence.
Je crois que l'incitation doit quand même être une limite. Moi, c'est là que je vois la limite.
Enfin,
c'est plus la liberté d'expression. Là. On est sur une autre incrimination.
Oui. Ouais. Une courte pause.
De l'ordre public ou à commettre une infraction.
Et on se retrouve là. Nous allons parler. Et votre avis va être intéressant, Sophie Audieu. Nous en avons parlé tout à l'heure sur les couvre-feux pour mineurs. Ça rejoint aussi la problématique de l'école, l'hyper-violence. Nous irons à Grande-Synthe. Vous allez voir, l'émotion est extrêmement importante. La peur aussi d'une partie des habitants. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets importants à évoquer. Je remercie Régine Delfour d'être avec nous. Régine qui est de retour d'Israël. D'abord, ça nous fait du bien que vous soyez avec nous. Merci. Vous avez été là pendant 10 jours, mais je rappelle à nos téléspectateurs qui vous ont suivis au fur et à mesure des duplex que vous avez réalisés, que vous y êtes depuis le 10 octobre, depuis le lendemain, le 8 déjà. Et vous avez vécu au fur et à mesure et au rythme, parfois aussi évidemment douloureux, tragique, du retour de certains otages, de la perte d'autres. On va beaucoup en parler, puisqu'aujourd'hui, c'est le 200e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
Un homme est jugé aujourd'hui après avoir menacé de mort l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel. Il avait publié un message menaçant après l'altercation entre le chef d'établissement et une élève qui refusait d'enlever son voile. Âgé de 26 ans, il se présente comme un militant pro-palestinien. Kenji Girac doit toujours être auditionné par les enquêteurs alors que les caravanes sont en train de quitter l'aire d'accueil de Biscarrosse où le chanteur a été blessé par balle. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a cependant été ouverte. Et puis les cyberattaques au cœur des préoccupations de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté a enregistré un record de plaintes en 2023 et l'année 2024 devrait être également très dense avec une menace importante autour des Jeux Olympiques.
Merci Mickaël et à tout à l'heure. Je voudrais d'abord revenir sur ce sujet où les élus, les maires sont en première ligne sur la question des couvre-feux. On a parlé de Nice avec la volonté de Christian Estrosi, Robert Ménard, Béziers et puis l'annonce de Gérald Darmanin, c'était il y a quelques jours pour ce couvre-feu à Pointe-à-Pitre. Après, je le rappelle, des semaines d'extrême violence dans les rues. Regardez ce sujet à Pointe-à-Pitre et puis est-ce qu'on peut faire la comparaison avec la métropole ? Parlons-en, regardez.
Oui, bonjour, c'est la police. Juste, ça serait pour vérifier. Vous pouvez me confirmer l'âge de votre fille ?
Dès 20h hier soir, dans les rues de Pointe-à-Pitre, 35 policiers et une quinzaine de gendarmes sont déployés. L'objectif, faire respecter le couvre-feu pour les mineurs non accompagnés, effectif jusqu'à 5h du matin.
C'est une découverte parce que c'est une grande première, donc on s'adapte, on improvise par rapport
aux instructions et puis à la situation.
Cet arrêté est destiné à lutter contre la violence et la mise en sécurité des mineurs dans un contexte d'augmentation de la délinquance où 40% des faits seraient commis par des jeunes âgés de 15 à 17 ans entre 20h et 22h.
On est là sur un secteur où il y a beaucoup de décrochage scolaire. Le décrochage scolaire est important chez nous, sur ce secteur-là. Quelle solution ? Quel outil qui existe ? On a fait des bilans de tout cela ?
Des jeunes en perte de repères sur une île où 34,5% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté nationale, selon l'INSEE.
Ils sont influencés par la musique, qui est souvent hardcore. On parle de drogue, d'armes à feu, et on prône cette violence-là. C'est triste à dire, mais les parents ne servent plus d'exemple.
Cet arrêté restera en place pour une durée d'un mois renouvelable. Les contrevenants peuvent s'exposer à une amende pouvant atteindre 750 € si le couvre-feu n'est pas respecté.
Ce qui m'interpelle ici, c'est les raisons évoquées. Donc c'est à la fois déshérence, violence, mais aussi décrochage scolaire, comme si le couvre-feu devenait une panacée. Comment vous réagissez, Sophie Audiger ? Est-ce que ça peut aussi, peut-être, aider justement les plus jeunes, parce que là, on parle Pointe-à-Pitre, c'était des semaines et des semaines de très très grande violence. Nous ne sommes pas dans le cadre ni de la ville de Nice, ni de Béziers, etc. Donc là, ça s'imposait. Oui, alors si on se replace du point de vue de la métropole, je pense que la situation est quand même assez différente. Moi, je ne suis pas favorable du tout à un couvre-feu. Je trouve que c'est évidemment une restriction des libertés. Je pense que c'est un aveu d'incapacité à agir, hein, c'est-à-dire qu'on accepterait que les parents sont incapables de s'occuper de leurs enfants. Moi, je pense qu'on a un gouvernement qui ne sait pas ce que c'est que d'être parent, qui ne connaît rien à l'enfant et qui n'a aucune connaissance du développement de l'enfant. Donc ça nous amène aujourd'hui à une situation qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'on laisse perdurer une désinstruction nationale avec une montée de la violence endémique de plus en plus tôt. On ne prend absolument pas les dispositions qu'on aurait déjà dû prendre depuis 10 ou 15 ans. Et on va faire un coup de com', un effet d'annonce en disant on va mettre effectivement un couvre-feu. Enfin, je veux dire, le couvre-feu, c'est quand on est dans des situations extrêmement graves, des situations de guerre. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir cette communication des restrictions des libertés. Il faut que chacun reprenne ses responsabilités. Je veux dire, la réalité, c'est qu'effectivement, les enfants sont violents parce que dès la primaire, ils ne sont pas instruits comme ils devraient être instruits. Il y a, et Maurice Berger l'explique très bien depuis très longtemps, et là-dessus, on voit bien que le discours de Gabriel Attal hier est une fois encore une manipulation. Il nous dit qu'il y a des familles défaillantes et des familles dépassées. Non, les familles défaillantes, c'était avant. Il y a aujourd'hui des familles qui ne partagent pas du tout la culture française, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que les valeurs françaises d'éducation. Le rapport à la violence n'est pas le même, le rapport à l'autorité n'est pas le même. Et là, on rentre dans une confrontation qui est majeure, c'est-à-dire ce qui n'est pas accepté par une partie des parents. Ça, c'est du très long terme, c'est une bataille culturelle. Oui, mais si vous voulez, quand à partir du moment en primaire où on accepte de ne pas instruire des enfants, où on accepte que des enfants ne soient pas scolarisés, parce qu'il y a des enfants qui sont déscolarisés dès la primaire. Sur votre plateau, une des intervenantes nous rappelait qu'effectivement, il y a un rectorat qui refuse de faire remonter les informations des absences des enfants en primaire. Donc si vous voulez, quand on a vu par exemple les jeunes hier incapables de se tenir, incapables de parler, qu'on a encore mis en rond comme si on était dans une réunion de sympathique, je veux dire, évidemment que c'est déjà trop tard. Je veux dire, c'est très tôt, très jeune qu'il faut mettre en place des systèmes d'autorité, des systèmes de respect, des systèmes de respect des valeurs, d'une forme de morale qui est la morale républicaine. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et s'il faut agir, c'est évidemment bien plus tôt. À 15 ans, 16 ans, c'est déjà évidemment bien trop tard.
Non, mais ce qui me désole, c'est que vous avez raison. Et que l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. C'est tout simplement le respect. C'est ce qu'il y a de plus partagé, tout simplement, le maître.
Quand vous lisez les réactions sur les réseaux sociaux, je ne citerai personne qui dit que demander aux élèves de se lever, c'est surréaliste. Mais moi, toute ma scolarité...
Alors, vous êtes d'une génération, on se levait...
Mais attendez, je vais prendre un exemple. Au service militaire, je fais partie de la génération qui l'a encore faite, même si un brigadier rentrait dans la chambre, quand on n'était pas encore gradé, qu'on était élève gradé, on se levait, c'était pas la même phrase, c'était un sous-officier ou un capot, un bichef, un officier ou... mon souci, c'est, mais c'était carré. On se levait dans la salle, il rentrait, on se levait et personne n'aurait crié au fascisme ou au nazisme.
Mais Philippe, il y a des choses, par exemple, mais qui peuvent paraître anecdotiques, mais c'est tellement vrai. Moi, quand je suis venue de Tunisie en France, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus d'estrade, où il n'y en avait quasiment plus. Et je me demandais pourquoi, parce que pour moi, c'était toujours l'estrade. On m'a dit, mais parce qu'il y a un rapport vertical à l'autorité. Je vais vous plaisanter. Je dis, mais c'est normal, c'est le maître, c'est l'enseignant. Il faut, parce qu'il ne faut pas justement montrer qu'il y a une verticalité et peut-être.
Mais je crois que c'est. En fait, ce que vous racontez, c'est ce que.
C'est une anecdote. Hein. Ça n'a pas valeur d'analyse très, très fine ni élevée.
Sophie, parce que Sophie Odiger parlait tout à l'heure de l'immigration et des enfants originaires. Mais...
Pardonnez-moi.
C'est précisément ce que vous laissez.
Voilà, ils connaissaient cette autorité-là chez eux.
Voilà, exactement.
Mais
plus que chez nous. Ils viennent.
Alors, ils sont français. Hein.
Ils viennent en général, leurs familles viennent en général, de cultures beaucoup plus autoritaires et beaucoup plus contraignantes sur les libertés que les nôtres. Ou alors, je pense à certains pays d'Afrique, par exemple, de cultures où il y a une responsabilité collective, c'est-à-dire que quelqu'un voit un gamin faire n'importe quoi, il lui colle une gifle, ou en tout cas il le réprimande, même s'il n'est pas son père ni sa mère.
Ça, d'où ma question, pourquoi vous faites en France que vous ne faites pas ailleurs? Je n'arrête pas de la poser depuis des années.
Parce que la France a renoncé d'elle-même à tout ce qui pouvait représenter l'autorité. Et là, on est obligé de retomber sur mai 68, la culture de mai 68.
Il est interdit d'interdire.
Sur le pédagogisme qui est fait pour que l'enfant s'épanouisse et qu'il n'y ait plus du tout de transmission verticale.
Vous vouliez ajouter quelque chose,
Sophie ? Oui, je voulais
dire
qu'il y a aujourd'hui des établissements en France, des établissements publics, où les jeunes se lèvent, enfin sont debout quand le professeur arrive et ne s'assoient pas avant qu'on leur ait autorisé à le faire. Et quand vous leur demandez ce que j'ai fait ce matin à ma fille, elle me dit « mais attends, enfin, on ne se pose même pas la question, c'est comme ça depuis la primaire ». Donc, et dans des établissements publics, si vous voulez, il ne faut pas non plus penser qu'il y avait un autre âge et qu'aujourd'hui c'est plus possible, ça n'existe pas. Si ça existe encore dans des établissements publics,
vous avez remarqué que quand vous entrez,
quand même pas la majorité.
Non, mais ça existe aussi. Et je veux dire, ce n'est pas
les poissons volants.
Oui, non.
Quand vous entrez sur le plateau, moi je me lève.
Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est très justement. On se doit aujourd'hui de rétablir des choses qui seront très faciles à rétablir. Je veux dire, en primaire, c'est très facile d'avoir des enfants en rang qui soient debout, qui attendent que le maître ou la maîtresse arrive et s'assoit quand il arrive. C'est pas très compliqué.
Régine Delfour, notre journaliste CNews, je vous le disais, de retour d'Israël. Votre témoignage est essentiel. Essentiel pour plusieurs raisons, parce que quand vous êtes sur place, il y a la lecture, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire vous nous expliquez ce qui se passe avec les différentes tensions, les contradictions, le débat qui est en cours. Et puis, il y a une lecture personnelle. Il y a ce que vous avez vécu et ce que vous avez même enduré, parce que vous avez vu des choses extrêmement difficiles. Vous y étiez le 8 octobre. Vous connaissez certaines familles d'otages personnellement. C'est le cas d'Adas Calderon. Je rappelle que c'est la mère de deux jeunes otages libérés, Mère Courage, dont une partie de la famille a été assassinée. Le père de ses enfants, l'un des trois des otages français, est encore détenu. Quand on traverse une période comme cela, ça arrive évidemment au grand reporter dont vous êtes. On revient tout de suite dans le bain, on écoute d'autres sujets d'actualité, parfois importants et parfois plus anecdotiques. Comment on passe de l'un à l'autre d'une situation de guerre où vous étiez à une situation aujourd'hui, j'allais dire en France, j'oserais pas la qualifier, je sais pas comment dire.
C'est assez compliqué en fait. C'est vrai que moi j'ai enchaîné plusieurs missions, j'ai eu heureusement la chance, la dernière mission où pendant 2 mois je ne suis pas repartie. Sinon, j'étais toujours, en fait, quelque part en boucle sur Israël dans ma tête. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi on montait sur certains faits d'actualité, puisque c'est toujours difficile de prendre du recul. J'ai évidemment des contacts permanents avec des familles d'otages, quand on apprend certains décès. Donc, je suis rentrée hier. Donc, quelque part, je ne suis pas totalement encore ici. Donc, je vois le débat sur le fait si on doit se lever ou pas en classe. Ce qui me semble quelque part un peu fou, parce que moi aussi, je fais partie de cette génération, on était debout. Mais Mais donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Après, on prend du recul, puis on, malheureusement ou heureusement, hein, la réalité revient très très vite et vous rattrape.
Je vous pose cette question parce que Hadas Calderon, que vous connaissez bien, alerte la France en disant ce qui nous arrive peut vous arriver. Alors nous avons eu des chocs extrêmement... Ils font partie des chocs les plus puissants, hein, que nous avons vécu en France avec les attaques terroristes islamistes. Mais elle dresse ce lien. Comment cette femme, avec tout ce qu'elle a vécu, peut avoir le recul aussi, l'analyse, de parler comme ça et de dire des choses aujourd'hui avec une analyse presque politique ?
En fait, ce n'est pas la seule. Hein. Moi, dès le 8 octobre, tout le monde m'a alerté en me disant « Mais attention, là, ce qu'on est en train de vivre, vous risquez de le vivre. Ça va bientôt se déplacer au niveau de l'Occident. Il faut d'ailleurs nous aider si vous n'avez pas envie de vivre la même chose. » Ma dernière mission, j'ai rencontré un membre de la famille Bibas. Hein, Bibas avec le petit garçon, le bébé, Fir, qui avait 8 mois quand il a été kidnappé avec son frère Ariel, qui disait exactement la même chose. Je ne comprends pas. Il me disait, je ne veux même pas faire de politique intérieure. Là, je veux que la communauté internationale comprenne ce qui est en train de se jouer dans le monde.
Il pense que nous n'avons pas suffisamment pris conscience de tout ça.
Non.
Qu'on est passé à autre chose.
Oui, pour eux, en fait, on voit ce conflit assez, d'une façon assez lointaine. On voit plutôt, on estime c'est plutôt un conflit entre
territorial entre
voilà oui. Entre Israël depuis 48, enfin depuis plus longtemps même, et que c'était plutôt un conflit entre les Juifs et les musulmans et que ça s'arrête là. Mais ça s'arrête pas là parce que ce que me disait Hadas, c'est en fait quand il y a une guerre, vous êtes en guerre contre un pays, vous savez quel est l'ennemi. Mais là, en fait, vous ne savez pas, ça peut vous prendre, vous surprendre à n'importe quel moment. À aucun moment, le 7 octobre, ils pensaient vraiment ce qui allait se passer. Il faut savoir que tous les gens qui habitaient près de la bande de Gaza dans ces kibboutz, ce sont des gens qui travaillaient avec les Palestiniens qui venaient travailler chez eux. Ils essayaient, ils emmenaient des enfants aussi en colonie, ils emmenaient des gens aussi dans les hôpitaux. Ils essayaient justement de vivre ensemble. Et c'était vraiment dans tous les kibboutz, on voyait ce drapeau, où c'était vivre ensemble. Et ils ne pensaient pas... Pour eux, c'est plus qu'une trahison, mais ils ne pensaient pas. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient arriver à faire cela. Maintenant, Hadas me dit, mais vous pouvez me donner 5 millions de dollars, je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas.
Et pourtant, sur Hadas ou d'autres, sur la solution à deux États et même sur l'action de Benjamin Netanyahu, parfois et souvent d'ailleurs, ils sont beaucoup plus critiques que certains, je dis bien certains Français de confession juive ici sur notre sol.
Beaucoup sont pour la solution à deux États en Israël parce que leur objectif, c'est de vivre en paix, vivre vraiment sereinement. Et on le voit de plus en plus, il y a des manifestations samedi. Tous les samedis, il y a des manifestations sur la place qui a été rebaptisée la place des otages. Mais à côté, vous avez la Kiria, c'est le QG de l'armée sur la rue Kaplan, où il y a des manifestations. Il y avait une énorme manifestation samedi contre Benjamin Netanyahou. Hier, à Césarée, là où il a sa maison de campagne, on va dire, de vacances, ils ont aussi manifesté. En fait, le peuple, bon, une grande partie du peuple israélien qui manifestait avant le 7 octobre réclame des élections anticipées, législatives. Ils ne veulent plus de Benjamin Netanyahou. Ça fait 200 jours. Les otages ne sont toujours pas rentrés. Et pour eux, il faut avancer.
Le rejet de Netanyahou est évidemment très, très fort. Et la conscience du danger beaucoup plus aiguë que celle que l'on peut avoir en France et en Europe. Mais par exemple, les Israéliens sont très unanimes quand on leur parle de l'UNRWA, l'agence de l'ONU qui est dédiée aux Palestiniens. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'aujourd'hui, Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires étrangères, a rendu le rapport qu'elle était chargée de faire après la découverte des collusions et même de la participation de certains membres de l'UNRWA au pogrom du 7 octobre, du soutien qu'ont exprimé les autres, et puis de son action éducative en général, puisqu'elle est dédiée à l'éducation et qu'elle empoisonne la jeunesse gazaouite avec des livres d'histoire notamment, qui leur apprennent à haïr les Juifs. Pas Israël, pas seulement Israël, les Juifs.
Bien sûr, c'est ça, évidemment.
Et Catherine Colonna a trouvé qu'il n'y avait rien à dire.
Depuis leur plus jeune âge, hein. Il y a cette éducation.
Oui, biberonné à
nous,
ça.
Et nous avons repris, je crois, les financements, nous, la France, à l'UNRWA, nous allons continuer.
J'ai beaucoup de questions aussi qui me parviennent. Est-ce que l'absence de journalistes occidentaux à Gaza?
Oui. Alors ça, c'est moi, j'ai pu rentrer le 1er janvier dans Gaza, dans le plus grand tunnel. Ouais. C'est chapeauté par Tsahal. On ne peut pas.
Très, très rare. Hein. C'est vraiment exceptionnel.
Oui, c'est très rare. On est très peu à être...
Et sinon, c'est impossible. Impossible.
Non, c'est pas totalement impossible. Si vous connaissez des militaires, vous pouvez rentrer.
Parce que là, les seuls journalistes qui sont, sont des journalistes palestiniens ou d'Al Jazeera.
Mais vous voyez celui qui a eu un prix pour cette photo. C'est un prix quand même... Vous avez vu.
Bien sûr.
Voilà, le 7 octobre, et il a été couronné. C'est un palestinien. C'est pas si...
On voit, c'était à l'arrière d'une sorte de pick-up avec
Qui savait ce qui s'est passé. Voilà, et qui était là à ce moment-là. Et il a eu un prix pour cette photo. Mais oui.
Aveuglement international, une fois de plus.
Mais depuis toujours, depuis tous les conflits, les journalistes, en fait, il y a cette colline à Sderot où on a un point de vue sur la bande de Gaza. Et en fait, tous les journalistes sont toujours massés à ce niveau-là. Et en fait, on était tous là et c'est très frustrant quand vous voyez en fait tous les bombardements qui sont dans la bande de Gaza et on vous interdit d'y aller.
Voilà l'image en direct avec cette colline. C'est-à-dire que vous, Régine Delfour, si vous avez eu la possibilité, vous seriez allé.
Oui, enfin, avec l'accord évidemment de...
Évidemment, de la direction. Notre direction, parce qu'il y a les risques pour vous, etc.
Mais quand je suis en face, enfin, on reçoit aussi des missiles. On a 30 secondes pour se coucher.
Et vous me disiez que le Hamas continue évidemment de tirer.
Oui, cette semaine, ça faisait très longtemps. Il y a eu des roquettes qui ont été lancées et sur Sderot et sur Ashkelon. Et ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc ça vient de la bande de Gaza. Parce que tous les jours, il y a des missiles qui viennent du Hezbollah du sud du Liban sur le nord d'Israël. Il y en a aussi par le Yémen. Mais la bande de Gaza... continue, même s'il y a toutes ces opérations en ce moment.
Et à l'instant, le Hezbollah, me dit Benjamin à l'oreille, vient de viser certaines positions israéliennes. Donc le combat, la guerre se poursuit. 200e jour quand même, et le Hamas qui n'est pas décimé, contrairement à ce que dit Benjamin Netanyahou.
Non, parce qu'ils avaient commencé, nous quand on y était, on avait vu tous les habitants du nord se sont réfugiés dans le sud de la bande de Gaza, donc à Rafah, ce qui pose le problème de cette opération. Mais il semblerait que le Hamas ait pu aussi se réarmer dans le nord. Et cette semaine, dans le centre, vers Beit Hanoun, ils étaient en train d'avoir aussi des opérations ciblées. On a l'impression, enfin, ils découvrent aussi ces kilomètres de tunnels, ces caches. On ne sait pas s'il y a des armes qui peuvent passer tranquillement par d'autres pays. Voilà, par certains tunnels. Et il semble que non, c'est très très compliqué. Alors quand Benjamin Netanyahou vous dit qu'il ira jusqu'au bout, jusqu'à l'élimination du Hamas pour libérer les otages, ils ont mis plus de 20 ans pour trouver et éliminer les terroristes qui avaient assassiné les athlètes à Munich.
La guerre contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique et extrêmement longue. Merci en tous les cas pour votre témoignage. D'ailleurs, vos différents reportages, on peut les trouver sur le site. Évidemment, merci Régine, c'est un plaisir de vous retrouver. Je remercie nos invités, mes amis également. C'était un plaisir, je vous retrouve très bientôt. Merci à vous Sophie également. Restez avec nous, vos éditions se poursuivent et je vous dis à demain, midi, avec grand plaisir.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.